Hey, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Midi, une minute. Je vous le dis tout de suite, on va commencer ça sur les chapeaux de roue, pas à peu près. La grosse nouvelle en ce jeudi 11 juin, c'est la chasse aux lanceurs d'alerte de la CAQ. On a congédié un fonctionnaire qui est allé porter des documents à Moncef Déragé du Parti libéral, aux journalistes et à la vérificatrice générale, parce que on perdait quoi? 1 milliard de dollars dans la filière batterie. Et le gouvernement, au lieu de mettre en place un plan d'action pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Olivier Smith-Lauzon? Ils l'ont mis dehors, bye-bye, puis ils ont mis l'UPAC dans le dossier. C'est vraiment la grosse nouvelle de la journée. Anto, es-tu d'accord avec moi?
Ah oui, c'est gros, là, puis tu sais, le timing, dernière semaine de session parlementaire, la CAQ qui essaie de marquer le coup, c'est comme un gros coup de marteau sur la tête, là. Ben, le rapport de la BG hier, c'était déjà un bon début, là.
Mais là, ça a frappé encore plus fort. Nathan Meilleur, t'es d'accord avec ça toi aussi?
Ben oui.
Ah, c'est vraiment, ben c'est oui. Vraiment très, c'est, très, très, très gros.
C'est vraiment excessivement particulier. Puis surtout, de ce qu'on comprend, c'est que ce gars-là a fait la job dans le bon ordre.
Oui.
Je m'explique. Il a levé les drapeaux à l'interne déjà. Il a mentionné à des gens autour de lui, à des supérieurs, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, puis il n'y avait pas de réaction. Fait que clairement, est-ce qu'il s'est fait dire de se taire? Puis là, lui, il a juste fait, ben en tant que bon citoyen, moi, je peux pas taire ça.
Ben
ça n'a pas de bon sens.
Un scandale d'un milliard.
Ben, on dilapide des fonds publics. Faut que quelqu'un. Fait qu'après ça, il a juste fait ce qu'il avait à faire, tu sais.
Donc, je vous explique le menu. On a au bout du fil, on va lui parler dans à peu près une minute, Guillaume Bouvrette, qui est le président du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Évidemment, Olivier Smith-Lauzon faisait partie de ce syndicat en tant qu'employé. Par la suite, on va avoir le vice-premier ministre et ministre à la Sécurité publique, Yann Lafrenière, en entrevue avec nous également. On va faire une petite pause, puis on va faire un caucus, parce que je vous annonce tout de suite que apparemment que moi et Antonine Iaccarini, on pensera pas pareil. Oh. Fait que le premier 45-50 minutes de show-là, il risque d'être explosif.
On s'est déjà chicané tantôt avant le show.
Oh, down! Et hey, puis c'est rare, ça arrive qu'on pense vraiment, mais vraiment pas pareil.
J'ai manqué ça. Moi, j'étais en onde avec Max, pour vrai.
Ouais, hey,
j'ai
exactement. Hâte
de...
ouais,
non, moi, je vais être spectateur dans le prochain micro.
Donc, c'est le menu pour la première heure du show. Et on va rejoindre immédiatement Guillaume Bouvrette, président du syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Monsieur Bouvrette, merci de participer à l'émission L'Enjase. Monsieur Bouvrette, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Oui, parfait. Merci beaucoup d'être présent pour nous. Vos premières impressions sur le congédiement de Olivier Smith-Lauzon?
Ben, c'est pas un dossier qui est banal. C'est un dossier majeur. Je vous comprends de réagir aussi fortement. Nous, ça fait un moment qu'on accompagne Olivier dans ce dossier-là, là, dès le début de l'enquête qui a été déclenchée suivant des fuites d'informations au Parti libéral, mon chef Déragi, comme vous l'avez mentionné. Mais selon toutes les informations qu'on a, il n'y a rien qui a été trouvé par rapport à Olivier dans ce dossier-là. C'est pas lui qui a donné l'information à mon chef Déragi, d'un côté. Mais par contre, on a profité de l'occasion, on a élargi la recherche, on a trouvé autre chose à lui reprocher qui n'était pas du tout le motif initial de l'enquête. Mais derrière ça, je nous rappelle qu'Olivier, son travail, c'est s'assurer que les investissements publics sont faits au bon endroit. Aujourd'hui, il a trop bien fait son travail. Il a levé des drapeaux rouges à plusieurs étapes dans ces projets importants-là de la filière batterie. Et on l'a remercié de ses services en congédiant parce qu'il n'a pas gardé la ligne de parti, alors que sa préoccupation première, c'est de préserver notre argent, votre argent, tout ce qu'on paie comme impôt au Québec. Et c'est pour ça qu'il est congédié aujourd'hui.
En demandant à l'UPAC d'intervenir, c'est le sous-ministre qui l'a demandé, est-ce qu'on vient politiser l'unité anticorruption?
J'espère que c'est pas le cas. Il y a un peu de flou derrière l'intervention de l'UPAC derrière ça. En clair, les appareils électroniques ont été saisis par son employeur à Olivier, par le sous-ministre directement, et pas directement par l'UPAC. Il y a certainement un flou que le gouvernement devra éclaircir derrière ça. Vous pourrez certainement poser la question à votre prochaine invitée.
Vous avez dit que ce n'est pas Olivier Smith-Lauzon qui a transmis les documents à Moncef Déragi. Est-ce que, à votre connaissance, M. Smith-Lauzon a transmis des documents internes à des gens de l'extérieur, que ce soit des médias, des élus ou peu importe?
Ce qui est ressorti là, en clair, c'est qu'il a transmis certaines informations, notamment dans les dossiers de Northvolt, à les journalistes de Radio-Canada qui ont fait grand état de la situation pour soulever des enjeux sur le risque présenté par ces investissements-là, enjeux qu'il avait soulevé auprès de sa structure hiérarchique et dont on n'a pas tenu compte lorsque les décisions sont arrivées au niveau politique. Et pour nous, la question qui est derrière ça, qui est primordiale, c'est est-ce qu'on paie des experts au sein de l'État québécois pour ne pas les écouter et simplement gérer les fonds publics au gré du vent, au gré de la pression politique, ou est-ce qu'on souhaite faire une gestion qui est responsable et être à l'écoute des gens qu'on embauche pour nous conseiller?
Donc si un fonctionnaire donne un avis et que son avis n'est pas écouté, vous trouvez correct que ce fonctionnaire transmette les informations, par exemple, aux médias? C'est une pratique que vous tolérez puis que vous trouvez qui est correcte dans l'exercice de leur fonction?
Je n'irai pas jusque-là, parce que si on souhaitait faire les choses vraiment dans l'ordre, on aurait apprécié d'abord peut-être de nous consulter. Comme syndicat de professionnels, on peut se faire les porte-paroles, les remparts justement contre des représailles de cette nature-là, pour qu'on accompagne des lanceurs d'alerte dans le processus. Et les processus, ils ont été bonifiés dans les dernières années, là, notamment par une modernisation de la loi. On peut centraliser des plaintes auprès du protecteur du citoyen qui assure la confidentialité de la chose et qui va faire une enquête indépendante, impartiale. Alors, non, je ne dirais pas que c'est le premier réflexe, c'est d'alerter des journalistes. Au contraire, mais ici, on sait qu'Olivier avait levé les drapeaux auprès de sa hiérarchie. On a ignoré ceux-ci. Et les résultats, c'est une dilapidation importante de fonds publics.
Vous venez de répondre, je n'irai pas jusque-là. Est-ce que le fait, justement, comme vous venez de dire, que c'est une dilapidation importante de fonds publics, vous amène à penser qu'Olivier Smith-Lauzon a bien fait? Parce que moi, c'est mon opinion. Hey, on parle d'un milliard là, d'argent perdu dans la filière batterie. Donc, je me dis, il était temps que quelqu'un mette ça au grand jour.
Il a certainement fait preuve de courage. Il a lancé des alertes et il s'est mis personnellement, là, finalement, en danger. Et là, il perd son emploi, non pas pour avoir mal fait son travail, mais pour avoir nui à l'image du gouvernement de la CAQ. Et c'est ça qu'on dénonce derrière ça. L'ingérence du politique dans les décisions gouvernementales, elle est devenue une culture. Et on a ajouté à ça une culture de terreur, de chasse aux sorcières. Ça fait plusieurs fois qu'on a des exemples comme ça où on cherche à sanctionner les gens qui ont donné de l'information sur, pour parler de transparence dans les décisions publiques, plutôt que de se questionner sur la validité de ces décisions-là. Parce que quand on prend les bonnes décisions comme gestionnaire de l'État, on n'a pas à être gêné de les exposer.
Donc ça, c'est votre ligne, au fond. C'est votre ligne de défense. Parce que, tu sais, c'est... bon. Je me fais un peu... pas l'avocat du diable, je pense que je suis comme la cinquième roue du carrosse aujourd'hui. Je suis comme en sandwich entre mes deux collègues parce que je trouve que il a bien fait parce que c'est une dilapidation de fonds publics, mais en même temps, je comprends que dans ses fonctions, il y a quand même des règles à suivre. Mais si on se fie vraiment aux règles, ce qui est écrit sur papier, il n'a pas suivi les règles.
Ça va faire partie du débat qu'on va devoir faire, parce que si c'est pas fait au moment où on se parle, ce sera fait. Olivier va déposer un grief, va contester son congédiement. Évidemment, on va l'accompagner dans la défense de ses droits. Il a mis de l'avant l'intérêt du public avant les intérêts du gouvernement ou même ceux du parti au pouvoir. Et il y a plus quand même préoccupant dans ce dossier-là. On a entendu la première ministre annoncer publiquement qu'un fonctionnaire avait été congédié dans un autre ministère. Elle parlait d'Olivier, alors qu'il n'avait pas encore été rencontré par son employeur. On tient des rencontres qu'on appelle d'équité procédurale, c'est-à-dire la personne à qui on fait un reproche a l'occasion de se faire entendre. Cette rencontre-là n'avait même pas eu lieu. Et de la bouche de la première ministre, on dit qu'il est déjà congédié. Il y a certainement des enjeux de processus de ce côté-là également. Et quand le politique se mêle des sanctions administratives ou disciplinaires des employés de l'État, pour nous, ça pose aussi d'importantes questions.
OK, mais M. Bouvrette, allons-y avec une autre formulation à la question. Si je vous dis que je suis d'accord avec vous et que dans ce cas-ci, le gouvernement n'a peut-être pas suivi les règles, est-ce que votre syndiqué a suivi les règles?
C'est ce qu'on va devoir déterminer. Vous comprenez que je n'ai pas tout le détail de l'analyse, mais L'enquête, nous, va continuer à se poursuivre sur comment on peut documenter son dossier et comment on peut le défendre derrière ça, parce que s'il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'il a fait son devoir en son âme et confiance. Et conscience, dis-je, ce n'est pas quelqu'un qui a bénéficié de cette situation-là. Il le fait parce que c'est son travail de le faire et de conseiller des investissements qui sont responsables dans la gestion de notre argent collectif. Et c'est pour ça qu'il est congédié aujourd'hui.
Au niveau des ressources humaines, je comprends quand vous dites qu'il y a eu ingérence du politique dans le processus, et ça, je vous l'accorde à 100%. Mais maintenant, sur le dossier, quand il y a un désaccord, par exemple, entre des fonctionnaires qui donnent des avis défavorables pour un dossier et le politique, qui doit trancher et qui est imputable à la fin?
Mm-hmm. Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. Hein. Le pouvoir politique est imputable de tout ça. Maintenant, je remets la question de l'avant sur on a des experts au service de l'État québécois et c'est devenu une mode de ne pas les écouter. Et dans le dossier de la filière batterie, ça a été particulièrement criant. On a eu un exemple similaire sur une recommandation de biologistes au ministère de l'Environnement qui recommandait la tenue d'un bureau d'audience publique en environnement, les fameux BAP, dans le dossier de Northvolt. Avis qu'on a choisi d'ignorer, encore une fois, parce qu'on a pris une tangente idéologique dans la filière batterie et qu'on a cessé auprès du gouvernement de se poser les bonnes questions et d'écouter nos experts. Alors, vous avez raison sur l'imputabilité des décisions, mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on embauche autant d'experts au sein de l'État québécois si à la fin, le pouvoir politique n'en fait qu'à sa tête?
Monsieur Bouvrette, quelles sont les prochaines étapes? Grief, par la suite, ça va aller en arbitrage. J'imagine que ça va aller sur des années, ce dossier-là?
Il y a toujours des délais. Vous avez raison de le soulever. On va déposer le grief, on va amorcer les discussions, évidemment, avec l'employeur et protéger les droits d'Olivier dans ça. Ce n'est pas banal. J'ai beaucoup d'empathie et d'admiration pour son courage parce que en droit du travail, le congédiement, c'est la peine capitale. Il est encore dans un congé sans solde pour des raisons personnelles qu'il avait planifié pour des voyages. Alors, on s'explique mal aussi l'empressement du gouvernement d'agir.
Ouais, c'est ça. J'avais regardé sur ses médias sociaux. Je voyais qu'il faisait plusieurs voyages. Donc, on l'a congédié durant son congé sans solde?
C'est exact. C'est un congé qui a débuté quelque part au début mi-décembre, là, essentiellement. Okay.
Puis c'est un congé sans solde de combien de temps?
Je veux pas le détail de l'information. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu sans entrer dans les détails?
Ça me semble que c'est un manque d'éthique. C'est un manque d'éthique, ça, de congédier quelqu'un pendant un congé sans solde. Je veux dire, on laisse finir son congé, il revient, on fait l'enquête, on le suspend le temps de l'enquête, puis après ça, on règle le tout. Il y avait vraiment un empressement du gouvernement de tenter de cacher ce fiasco-là.
Il faudra leur poser la question, mais effectivement, pour nous, il n'y avait pas urgence d'agir dans la mesure où ils n'étaient pas en fonction, ils n'étaient pas en emploi. Leur argumentaire tient moins la route, mais ça fera partie pour nous de l'analyse et de la défense.
Ça faisait combien de temps qu'ils étaient à l'emploi du gouvernement?
Selon les informations que j'ai, c'est plus d'une dizaine d'années comme conseiller en intervention stratégique au sein du ministère. Comme je le disais plus tôt, son travail, c'est de s'assurer que les investissements sont faits au bon endroit. Il le faisait avec conviction, avec un niveau d'expertise important. Malheureusement, il est en paix des frais aujourd'hui.
Monsieur Bouvrette, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, au revoir. Guillaume Bouvrette, qui est président du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Malheureusement, Yann Lafrenière, vice-premier ministre, vient d'être appelé au Salon Rouge parce qu'on est en période de vote pour la loi Gabi-Renault, une loi très importante. Alors, il va tenter de se rendre disponible d'ici 14 heures, mais malheureusement, là, il ne sera pas disponible pour les prochaines minutes. Donc, on va passer immédiatement au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte.
Le caucus avec Antonin Niacarini. Réagissez au 418-971-1021. Écoutez-nous via le blvd.fm. Ça va se retrouver également dans les meilleurs moments. Nate, t'avais une question pour nous deux avant?
Ouais, c'est-tu là qu'il faut que j'aille me chercher du popcorn?
Je pense que oui.
Ouais.
Je pense qu'on va donner un bon show.
Yes.
Yes. J'ai hâte. Hey, 10 ans au service du gouvernement, il est en congé sans solde. Congé sans solde, ça veut dire que j'ai pas de salaire, j'ai économisé mon argent pour aller faire des voyages, puis on lui dit, on te met dehors le beau parce que tu nous as nuit à notre image. Tu as terni notre image de brûleur d'argent de 1 milliard de dollars. Ça fait pas de sens pour moi. Ce qui se passe à l'heure actuelle.
Est-ce que j'ai le droit de reformuler ton... Parce que tu t'es légèrement présenté d'une seule perspective, là, cette affaire-là.
Ah ouais?
On le met
comment
dehors
ça,
pour avoir nuit à l'image de la CAQ qui brûlait des milliards. Ben, il a été mis dehors parce qu'il a transmis des documents confidentiels. Et là, on revisite cette situation-là à la lumière du rapport de la VG qu'on a vu hier. D'ailleurs, bravo. Parce que ça, c'est des institutions qui fonctionnent. Mm-hmm. Une vérificatrice générale qui a accès à tout, qui est complètement indépendante et qui va surveiller ce qui se fait dans les ministères et qui sort la vérité.
Ben
c'est
oui.
comme ça que ça doit fonctionner. Pas parce que quelqu'un est fâché qu'on n'écoute pas ses avis.
C'est pas parce qu'il était fâché qu'on n'écoute pas ses avis, Antonine. C'est un fiasco d'un milliard
de
dollars.
Mais il savait pas à l'époque. Je suis désolée, tu revisites ça à la lumière de ce que tu sais maintenant.
Tu voudrais qu'on camoufle les gaffes du gouvernement
ben
de 1 milliard de dollars.
Hey, ils sont pas camouflés.
C'est nos taxes,
mais
c'est nos impôts. Le monde a de la misère à arriver à la fin du mois.
Ce n'est pas camouflé. C'est public. Ces informations-là, à l'étude des crédits, les médias font leur travail. La vérificatrice générale fait son travail. Cette personne-là, mettons qu'on mette de côté le dossier. Tu es fonctionnaire.
Ouais.
Là, tantôt, j'écoutais M. Bouvret du syndicat. Il défend ses syndicats. Il fait très bien son travail, OK? Mais, puis là, il y a des informations qui dit qu'il n'a pas. Parce qu'on le pose la question, est-ce qu'il y en a qui ont des documents qui ont été transmis? Bien là, j'ai pas encore toutes les infos. Mais quand toutes les infos vont sortir, je sais pas si on va encore parler de gestes courageux et tout ça.
C'est
parce
quoi?
Que toi, dans, mettons que tu es patron d'une entreprise puis que ton employé n'est pas d'accord avec une de tes décisions.
Ouais.
C'est toi qui es imputable. C'est ta business, mettons-le.
Sais-tu ce que je me rends compte?
Quoi?
Tu protèges l'establishment.
Oh mon Dieu.
Ah ben non, mais c'est vrai, tu l'as fait aussi dans le dossier de Marois Risky. Puis Marois Risky, oups, on a la colonne.
Ce n'est pas l'establishment. Moi, c'est le respect des institutions. Puis effectivement,
ben d'abord les institutions.
Je veux juste finir ma phrase. Effectivement, j'ai un respect pour la hiérarchie. Moi, mettons que j'ai un patron qui me dit quelque chose.
Ouais.
Et que je suis en désaccord. Je vais faire ma bataille à l'interne.
Mm-hmm.
Mais si je suis en position que c'est pas moi qui tranche, c'est pas moi qui est imputable, je vais me rallier ou je vais quitter. Mais si je dis, bon, ben, tant pis, je vais te nuire ouvertement, je vais prendre des documents confidentiels et les envoyer à des gens qui n'ont pas d'affaires à les avoir, ben là, ça devient arbitraire. On peut trouver que cette fois-ci, il avait raison de le faire.
Ben
c'est un fiasco. Et puis là, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement.
Un fiasco d'un milliard.
Honnêtement, c'est un scandale. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est dans la façon de faire. Ça ne peut pas être ça. Cette fois-ci, tu es d'accord avec lui.
Mais s'il n'y a pas de lanceur d'alerte, mais s'il n'y a pas de lanceur d'alerte, s'il n'y a pas de journaliste, s'il n'y a pas ce cinquième pouvoir-là, là, le gouvernement, comment il va être mis sur la sellette? Parce que Jean-Pierre nous écrit, vérificatrice générale a fait un rapport, puis bien souvent, ça reste tabletté. C'est les journalistes qui ont le pouvoir de faire bouger le gouvernement.
Attends une minute. Pourquoi, quand la VG transmet de l'information aux médias, ce serait tabletté, mais qu'un lanceur d'alerte, ça ne serait pas tabletté? C'est la même chose, c'est la même information qui est rendue à vos oreilles. C'est la même chose, c'est juste qu'il y en a une, que c'est son travail, elle est là pour ça, elle travaille de manière indépendante, et il y a quelqu'un qui a pris une initiative arbitraire de le faire, OK? Puis on est d'accord sur le fond des choses. C'est pas parce qu'il y a raison que je trouve que c'est correct d'envoyer des documents confidentiels. C'est comme aller voler des choses pour les donner à quelqu'un qui en a besoin.
Ah,
c'est pas plus légal.
C'est pas vrai, c'est pas ça.
C'est la même
chose.
Non. C'est que tu ne suis pas les règles.
Tu mets à jour un scandale. Puis d'ailleurs, par texto, tout le monde est en accord avec le lanceur d'alerte à l'heure actuelle.
Pourquoi le scandale sort le lendemain de la rapport du VG? Pourquoi c'est pas sorti quand les documents ont été transmis?
Je m'excuse, mais le scandale des blocs de mégawatts, il est sorti quand mon chef d'Éragie s'est présenté à l'Assemblée nationale le 7 décembre, quand il a reçu les documents confidentiels d'un employé, parce qu'apparemment que c'est pas cet employé-là, c'est même un autre.
Puis là, il y a deux secondes, je vous interromps, parce qu'à date,
ben
c'est
oui,
bon, mais il y a un texto qui vient de rentrer, parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Pierre qui dit, mais si c'était public comme info, à ce moment-là... il n'aurait pas transmis de documents confidentiels, mais je veux pas qu'on mélange les affaires. Là. Ce qu'il a
public.
Transmis, c'était confidentiel.
Dans le fond, c'est qu'à l'époque, puis excusez, on est parti très vite à s'obstiner, moi puis Jeff, et désolé si on vous a laissé à la dernière station en arrière, on va faire un petit récapitulatif. Il est question de documents sur des blocs d'électricité. Dans le fond, mettons que tu es une entreprise puis tu veux faire un projet au Québec, mais tu as besoin d'avoir de l'énergie pour le faire d'Hydro-Québec, il faut que tu te fasses attribuer des blocs d'électricité par Hydro-Québec. Et à l'époque, mon chef d'Éragi voulait qu'on rende public. En fait, il avait été mis au courant qu'il manquait d'énergie, en
Exactement.
Fait, qu'on n'en avait plus. Et il posait la question à Christine Fréchette, alors ministre de l'Énergie, il en reste combien? Elle refusait de répondre, mais il y avait déjà le document qui avait été transmis par des sources gouvernementales. Donc, il est sorti après dans un point de presse avec son document. Ces documents-là, dans la vraie vie, c'est qu'on demande aux entreprises de nous donner beaucoup d'informations. Hein, on a une grosse bureaucratie, on demande plein de documents à ces entreprises-là pour qu'ils aient leur bloc d'électricité. Après, quand ils donnent ces infos-là, c'est pas pour qu'ils soient nécessairement étalés sur la place publique. Il y a des informations qui sont sensibles au niveau compétitif, au niveau commercial, au niveau même de la propriété intellectuelle des fois. Donc, ça n'a pas lieu d'être que mon chef d'Éragi sorte ces informations-là en public. D'ailleurs, une autre affaire qui paraît bien mal politiquement, le point de presse de mon chef d'Éragi a été complètement effacé des plateformes de l'Assemblée nationale.
Oui.
Mais moi, je pense qu'il y avait probablement des risques de poursuite. Parce que nous, on veut que les gens viennent faire des projets puis de la business au Québec, mais on leur demande plein de documents, puis après ça, on va favoriser des délits d'initiés puis d'étaler sur la place publique leur propriété intellectuelle.
Mais ça
marche pas, là.
Ouais, mais ça, comme Marois Risky l'a dit, puis j'ai l'extrait, mais je vais le résumer, là. Tu sais, mon chef d'Éragi qui monte la feuille à l'Assemblée nationale, de besoin de retirer la vidéo, là. T'as juste besoin de camoufler la feuille, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la technologie
on est d'accord.
Existe.
Non, mais de toute façon, non, c'est pas ça le point. Le point, c'est que tu as des informations confidentielles et sensibles, tu as des entreprises qui ont transmis de l'information, tu en as certaines qui sont cotées en bourse. Je m'excuse, là, mais déjà, on n'a pas un environnement d'affaires super propice. Si en plus, notre gouvernement envoie toutes les informations qu'on leur donne, qui nous exige à la télévision d'État, moi, je m'excuse, là, mais c'est pas des façons de faire.
Mais dans ce cas-là, il l'a pas envoyé à la télévision d'État, il l'a envoyé à mon chef d'Éragi, un député, et c'est peut-être pas lui, mais il l'a envoyé à mon chef d'Éragi.
Mais Thomas Gerber, c'est plein d'affaires, là.
Hein?
Thomas Gerbet a reçu plein d'informations aussi. Là.
Ben oui, mais il a creusé par la suite. Thomas Gerbet, il a fait son travail de journaliste.
Non, mais on le sait pas. Okay? Puis moi, j'ai des sources qui me disent qu'il avait envoyé des tonnes de documents. On verra, l'enquête suivra son cours. Mais ce n'est pas la façon de faire. Puis je reviens aussi sur... Parce que M. Bouvrette disait avec raison, on paye des gens pour nous donner des avis, il faut
ben
les
oui.
écouter. Il faut les écouter, c'est sûr. Mais à un moment donné, c'est le politique qui tranche. Ils ont tranché... Ils ont pris des mauvaises décisions.
Ils sont plantés.
On est d'accord. Je suis toute d'accord avec ça.
Mm-hmm.
Mais c'est quand même le politique qui doit trancher.
Oui, mais c'est quand même ce même politique-là qui, en janvier dernier, nous disait encore « Ah non, Nordvolt, inquiétez-vous pas, on va l'avoir. »
Oui, sauf que des fois, là, c'est drôle parce que quand j'écoute les gens, ils vont analyser ces situations-là juste à la lumière des projets pour lesquels ils sont pour ou ils sont contre. Okay? Le tramway de Québec, là.
Oui.
Le BAP a dit quoi?
Ben, le BAP a dit « Le tramway ne devrait pas se faire. »
Puis on l'a fait pareil?
Ben, il est en train
ben,
de
les
faire.
Mêmes, y a les mêmes personnes là, qui sont pour le tramway en ce moment, là, puis qui vont dire que c'est bien correct que le fonctionnaire était contre la filière batterie. Donc, on écoute les fonctionnaires ou pas. Ils sont là pour donner des conseils. Les scientifiques
ouais.
donnent des conseils. Et après, c'est aux politiques de trancher.
Ouais. D'un, moi, j'étais contre le tramway, puis j'étais contre Nordvolt. Fait que d'après moi, je me positionne bien avec les lanceurs
toi,
d'alerte.
Toi, t'es plus cohérent. T'es plus cohérent.
Ça suit, là,
ben,
moi.
Ça suit, exactement.
Oui, c'est ça.
Mais tu sais, pour dire que moi, j'en veux des lanceurs d'alerte, parce que je veux que ça soit mis au grand jour quand le gouvernement se plante avec des milliards et des millions
Écoute, Jeff,
de dollars.
Moi aussi. J'aime ça. OK? Là, je sors de mon rôle de...
Oh,
comme
oui.
tu dis, je protège l'establishment. Moi, je préfère dire que je protège les institutions et les bons processus cohérents
Parce
et
que
logiques.
Là, t'as protégé le Parti libéral, là.
Hey, là.
Attention wow, quand la corruption va sortir, là.
Ben...
T'as protégé le Parti libéral. Marois Risky aurait dû se fier à son chef Pablo Rodriguez.
Tu ne sais toujours pas ce que Marois Risky savait à ce moment-là. Encore une fois, on revisite une situation.
Oui, je sais toujours pas ce que Marois...
Elle s'est chicanée avec Geneviève Vigne, c'est ça qui s'est passé.
Je sais toujours pas ce que Marois Risky savait à ce moment-là.
C'est le journal qui l'a sorti.
Mais je te dirais que Sona Lakonen, ça fait partie des choses que Marois Risky savait.
Ah oui, on a vu ça où?
Hein?
Comment tu sais qu'elle savait ça?
Elle l'a dit sur nos autres.
Oui, mais à l'époque, là, elle n'avait pas parlé. Fait que je sais pas. Est-ce qu'elle l'a appris après, puis qu'après, elle a dit oui, je le savais, puis j'y ai dit.
Je vais la croire. Ça a dit sur nos ondes que Sona Lakonen, ça fait partie d'une étape
Ben, c'est possible. Cela étant, moi, je suis pour des processus qui sont clairs et non arbitraires le plus possible. Et j'avoue que s'il n'y a plus de hiérarchie puis qu'on n'écoute pas les chaînes de commandement jamais, pour moi, c'est pas plus avantageux, puis ça va pas faire en sorte qu'on va éviter des fiascos. On a des institutions, on a des journalistes qui font un excellent travail, puis je mets ça de côté 5 minutes. Moi aussi, j'aime ça que les informations sortent. Là. Mais regarde, comme c'est le fun, là. On fait une belle chronique, on se chicane.
C'est ça.
On est en conflit d'intérêt, Jeff.
Des lanceurs d'alerte.
On est en conflit d'intérêt parce qu'on a intérêt à ce que les lanceurs d'alerte nous donnent des cadeaux comme ceux-là. Quand je sors de cet intérêt-là, puis que je regarde l'intérêt général, puis comment ça devrait fonctionner dans un ministère, dans un gouvernement, je me dis attention, là, c'est vrai que sur le fond des choses, la filière batterie, c'est indéfendable. Je veux pas défendre cet élément-là. Mais je me dis, la fois qu'il y a un lanceur d'alerte qui va faire dérailler un projet pour lequel tu es pour, là, je suis pas sûre que tu vas trouver ça génial. Puis je suis pas sûre non plus que tu aimerais ça avoir quelqu'un dans ton équipe, si tu étais patron, qui donne les informations confidentielles à chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec une des décisions que tu prends.
Ouais. Mais je pense quand même que là, il y a une différence entre le privé et le public à ce niveau-là, par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a des règles à suivre. Puis
c'est
important
de l'argent
de
public, c'est notre argent.
C'est de l'argent public. T'sais, c'est sûr que si je fais la même chose avec un dossier très sensible appartenant aux frères Leclerc, je peux comprendre que je me fais clairer instantanément parce que là, on est dans une entreprise privée. Quand ça touche la propriété intellectuelle, ça aussi, je peux comprendre, comme les exemples que tu donnais un petit peu plus tôt. Mais la question que je me pose depuis tantôt, je ne sais pas comment on pourrait faire exactement, mais tu sais, les lobbyistes, entre autres, là,
ouais.
C'est géré, ça. Il y a certaines... coche que tu dois... Mm-hmm. Il y a certaines cases que tu dois cocher pour avoir la permission d'être au Parlement puis d'avoir la possibilité de jaser avec des gens qui ont du pouvoir.
Il faut que tu t'inscrives au registre et que tu dises qu'est-ce que tu vas aller demander. Donc, tout ça, c'est public.
Ça, c'est public. Est-ce que à ce moment-là, vu qu'il y a des règles en place déjà existantes, on devrait faire un truc un peu similaire par rapport aux lanceurs d'alerte aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait éventuellement de faire comme... Moi, je décide que c'est ce que je vais faire dans la vie. Évidemment, il faut que ces gens-là soient filtrés parce qu'on s'entend que ce qu'on veut, c'est pas non plus des membres supplémentaires dans l'opposition, là, qui vont juste aller se plaindre constamment de « c'est mal fait, c'est tout croche ». Mais est-ce qu'on devrait pas peut-être se dire « regarde, on va créer une case à part des règlements qui sont là » et oui, les lanceurs d'alerte auraient le droit, après avoir respecté une certaine démarche, d'avoir déjà contacté les ministres en place qui sont responsables de ces budgets-là, si après tant de temps, il n'y a pas de décision ou il n'y a rien qui est fait au niveau public, là, le lanceur d'alerte aurait le droit, vu qu'il a des documents sensibles entre les mains, de partager peut-être, mais il faut tout le temps que ça passe par le VG ou la VG. À ce moment, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être qu'on décide d'établir un truc comme ça dans nos politiques?
Il y a des règles qui protègent le lanceur d'alerte, notamment des règles de ressources humaines, de droit du travail. Mais je t'écoute puis je me dis, disons qu'on refait tout ce processus-là, mais que le fonctionnaire, c'est pas... Tu sais, là, c'est tellement gros, ces filières batteries. Mais mettons que c'est complètement autre chose. Puis il n'y a pas raison, mettons, la personne de faire ça. Puis que sur le fond des choses, là... Je vous donne un exemple.
Le journaliste ne sortira pas.
Bien, pas nécessairement.
Non, là, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'il serait peut-être trop tard, puis le mal serait fait parce que l'information aurait été partagée.
Si c'est un dossier là, que le journaliste prend, là, puis là, qui fait... Parce qu'on en a, nous autres, là, on a une ligne, là, ben, une adresse courriel citoyen-commercial-blvd.fm. C'est Mathieu Surcotte qui s'en occupe. Il reçoit des affaires.
Mais oui.
Il y a des affaires qui fait, ben non, je n'irai pas en nom avec ça, ça n'a pas d'allure. Fait que s'il y a un lanceur d'alerte, exemple, qui va voir Thomas Gerbet...
Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire, par pas raison.
Hey, voilà mon dossier. Puis Gerbet prend ça dans les mains, puis il fait...
Je veux pas dire, mettons, que c'est des fausses informations. Mettons, c'est des vraies informations, mais que, tu sais, le gouvernement, il a été élu là-dessus, mettons. Puis que le fonctionnaire, lui, est pas d'accord. Okay, je veux dire n'importe quoi. Le gouvernement se fait élire, il a promis de faire un pont entre... sa Côte-Nord, mettons, là, où est-ce qu'il y a une traverse, là, à Sainte-Catherine, là, à Baie-Sainte-Catherine.
Ouais. Okay.
Là, le fonctionnaire, lui, il est au ministère de l'Environnement, mettons. Puis il trouve que c'est pas bon de mettre un pont là parce que les avis scientifiques disent que ça va déranger la faune marine.
Ouais.
Fait que là, il dit, à l'interne, puis là, les gens disent, je comprends ton avis, merci beaucoup, mais c'est un coût environnemental qu'on est prêt à prendre, on l'a promis, on va le faire, on a d'autres préoccupations, notamment économiques. Mais là, si je comprends bien, il y aurait le droit, après, de couler ça dans les médias puis de nuire ouvertement au gouvernement puis d'essayer de faire dérailler le projet.
Puis le gouvernement dira juste aux médias, « Hey, on comprend, il nous l'avait donné, la recommandation, mais savez-vous quoi, nous autres, on est prêts mais, à y aller de l'avant.
Mais je vais vous soumettre un autre enjeu. Mm. C'est que si les fonctionnaires, c'est comme ça, quand tu travailles avec eux, parce que notre système politique fait en sorte, aux États-Unis, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il claire tous les fonctionnaires puis il embauche tout le monde qu'il veut. Okay? Nous, on est dans un système plus de style britannique et les fonctionnaires, ils peuvent passer 4 ans à travailler sur quelque chose, puis ils peuvent passer 4 autres années après à défaire ce qu'ils ont fait dans les 4 années précédentes. Oh, oui. La machine suit le politique.
Exactement.
C'est comme ça ici. Si on commence à plus avoir confiance aux gens avec qui on travaille...
Moi, je vais te le virer à l'envers. Si tu n'es pas capable d'expliquer ta décision devant des journalistes, c'est que c'est la mauvaise décision. La CAQ a congédié ce lanceur d'alerte-là parce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer comment ils ont fait pour flamber 1 milliard.
Mon problème avec ce que tu dis, c'est comme si... Il y avait juste lui qui avait apporté ce sujet-là, alors que, je veux dire, les fiascos de la filière batterie, on en parle, les journalistes en parlaient, tout reposait pas sur son geste héroïque. Je m'excuse, là, les institutions faisaient leur travail, l'étude des crédits, les oppositions faisaient leur travail, les journalistes font un excellent travail. Il n'était pas essentiel au dévoilement de l'information. Pour moi, c'est un cas classique de « il m'écoute pas ». Donc, je vais bypasser le processus. Mm-hmm. Puis, je vais envoyer des documents aux médias puis aux oppositions. Puis là, j'entendais tantôt les autres partis d'opposition dire qu'ils avaient bien raison puis tout ça. Fait que si je comprends bien, eux, quand ils vont être au pouvoir, les fonctionnaires ont le droit d'envoyer des documents confidentiels au groupe d'opposition. C'est notre.
La nature politique va faire en sorte qu'ils vont s'en plaindre. Mais écoutons, par texto, plusieurs réactions.
Ah, j'imagine que personne n'est d'accord avec moi et j'assume.
Attends, avant, 2 petites secondes, parce que, tu sais, c'est ça, on a reçu un texto, là, je fais comme l'arbitre un peu entre vous deux. D'ailleurs, j'adore ça. Honnêtement, j'espère vraiment que vous avez signé pour une série parce que j'ai hâte au 2e épisode.
Ça va être bon,
Ça va être très, très bon. Mais juste être clair, parce que par texto, c'est rentré à 2 ou 3 reprises. C'est vraiment bizarre d'être contre les lanceurs d'alerte. Comprenons-nous bien, il n'y a personne ici en ce moment dans le studio qui est contre les lanceurs d'alerte. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la façon dont ça a été fait.
Exact.
C'est le processus qui a été utilisé. Mais il n'y a pas personne qui est contre les lanceurs d'alerte parce
On veut tous la vérité.
Tout le monde veut la transparence. Là, on s'entend. Puis comme contribuable, on en a besoin. Jeff, tu donnais des bons exemples tantôt. Les gens ont de la misère à arriver à la fin du mois. Fait que c'est sûr et certain, quand il y a 1 milliard qui est flambé, on veut le savoir. Mais juste rectifier les faits, personne ici est contre les lanceurs d'alerte. On remet en question le processus.
Moi, je vais aller militer pour qu'on réembauche le fonctionnaire Olivier Smith-Lauzon. Il a fait son travail.
Tu devrais l'embaucher.
Il a dit qu'on avait 1 milliard de dollars perdus dans filière batterie. On est fiers de lui parce qu'à la fin du mois, les Québécois n'arrivent pas. Puis pendant ce temps-là, Legault et Fitzgibbon peuvent prendre leur cigare et leur scotch au Cigar Room puis rire de nous autres.
Oui, puis ça, c'est un excellent point en passant. C'est pas... le fonctionnaire en question, il n'a pas dévoilé une vaste affaire de corruption. Il a dévoilé quelque chose qu'on savait déjà.
Oui.
Qu'on avait 2 bonhommes qui avaient décidé qu'on allait faire ça puis que ça allait être bien, bien bon.
Alors,
qui ont pris des risques avec notre argent.
Ça, je la comprends pas, l'UPAC. Là.
T'as pas le droit de transmettre des documents.
C'est anti-corruption.
Non, t'as pas le droit. C'est trafic d'influence aussi. T'as pas le droit de transmettre des documents confidentiels qui ne t'appartiennent pas avec ton ordi de job. T'as juste pas le droit de faire ça.
On va loin pour protéger notre image en tabarouette.
C'est sûr que le gouvernement protège son image.
On va vraiment loin.
Ils sont pas blancs comme neige, là.
Comme le Parti
libéral. On va peut-être apprendre d'autres affaires aussi.
Oui.
Si l'UPAC se met le nez là-dedans, peut-être qu'on va apprendre d'autres choses, parce que là, c'est sûr que c'est la carte qu'a sorti la CAQ aujourd'hui. Mais ça pourrait ne pas être étonnant d'apprendre d'autres détails, parce que comme tu disais, Antonine, il y a plein de... détails qui ont été partagés, on les savait, mais il y a bien des affaires qu'on ne sait pas non plus, puis peut-être que ça va se revirer contre eux, mais là, je ne veux pas faire mon lanceur d'alerte, moi non plus.
T'as le droit, et on t'aime si tu es un lanceur d'alerte. Mais je tiens quand même à souligner à quel point... Thomas Gerbet, c'est un bon journaliste.
Ben oui.
Puis il a le sens du timing. C'est pas pour rien qu'il est sorti ça aujourd'hui, le lendemain du rapport de la VG. Mm-hmm. On a tout ça dans nos têtes. Parce que depuis tantôt, Jeff, il dit un fiasco d'un milliard. S'il avait sorti ça il y a 3 mois, on savait déjà que c'était un fiasco. Mais, tu sais, là, il a attendu après le rapport de la VG pour qu'on réinterprète cette affaire-là à la lumière de ce qu'on sait maintenant, grâce à nos excellentes institutions et chiens de garde démocratiques.
Ah non, continuons avec les lanceurs d'alerte, parce que les institutions, il y a toujours un filtre. Puis il y a toujours un fil qui fait en sorte que on connaît pas toute la vérité.
Bien là, moi, je veux juste vous dire que, par information, ici, on me dit dans le cru de l'oreille que pour un pilote, ça a vraiment bien été. Puis le contrat est signé.
Merci
on
pour
veut
vos
d'autres textos. Épisodes.
Merci pour vos textos. 418-971-1021. Je vous dirais que vous êtes à peu près 80% team lanceur d'alerte.
Ben oui.
20% team Antonine. D'ailleurs, Jonathan écrit team Antonine.
Merci, Jonathan.
Sylvain aussi disait qu'il fallait que ça passe par le vérificateur général. Kim qui dit « Ben oui, comment on fait pour s'assurer qu'on se fait pas fourrer s'il n'y a pas de lanceur d'alerte? » Ça, c'est vrai. Pour ou contre? Il faut se poser des questions. Fred qui dit « Hey, si on se fait fourrer, je veux le savoir, peu importe
ben,
de qui
aussi.
Ça vient.
Ben. »
Hey, on fait la parenthèse, puis c'est pas pour rien que je t'ai reparlé de Marois Risky, parce que j'ai quand même trouvé ça assez drôle aujourd'hui que Moncef Déragé et Charles Milliard prennent la position pro-lanceur d'alerte.
Oui!
Quand ils ont mis Marois Risky à la porte de leur parti.
Parce que toi, tu considères que c'est une lanceuse d'alerte.
Ben oui, c'est une lanceuse d'alerte.
Moi, ce débat-là, pour moi, n'est pas clos.
Alors, je te laisse entendre l'extrait de 28 secondes, OK? Il y a la portion Marois Risky dans l'extrait, mais il y a une autre portion que je te dis pas, que j'ai remarqué. Puis là, je veux voir si on va revenir sur la même longueur d'onde. OK, t'es prête?
Go.
On y va.
Ben écoutez, le rapport de Mme Lecoyenne, il existe, puis on a réagi avec les infos qu'on avait. Donc, c'est pour ça qu'avec Mme Risky, j'ai toujours été très clair qu'on voulait avoir les résultats de toutes les enquêtes. On les a pas. Alors que dans le cas de Mme Fréchette ce matin, c'est très clair, la situation est condamnable, et je pense que c'est important que les Québécois soient au courant de ça aujourd'hui.
Je vais juste me permettre. Si ça ne vous dérange pas, je vais me permettre. Là, on parle, et j'ai beaucoup de respect à ma collègue Marois Risky, mais aujourd'hui, on parle de 800 millions de dollars perdus dans la filière batterie.
As-tu remarqué quelque chose?
Oui.
Vas-y.
C'est la même chose que moi?
Ben, je suis certain, mais vas-y, dis-moi là en premier.
Ben, premièrement, Moncef voulait mettre son petit grain de sel.
Moncef a tassé son chef.
Il a tassé le chef et il voulait tracer une ligne de différence entre le lanceur d'alerte de qui il est question et qui lui a envoyé le document. Et Marois Risky.
Oui. Il a tassé son chef.
Si je peux me permettre.
Et quand on dit que Charles Milliard contrôle rien dans le Parti libéral du Québec.
Ah, ben là, t'es pour la discipline maintenant.
Non, je suis pas pour
moi,
la discipline.
Je trouve que Moncef, là, il voulait dire la vérité. Moi, je suis pour ça qu'il tasse ton chef et qu'il dise la vérité.
Je suis pas pour la discipline. C'est juste que quand Charles Milliard nous dit « J'ai les clés, moi, de l'autobus. »
C'est moi qui mène.
C'est moi qui va décider. Fait que je vais tellement décider que je veux améliorer le français au Québec puis que son caucus, il dit hey, on va pas là. Puis là, qu'après ça, il tombe.
T'as-tu l'impression qu'il est en probation? Il y a comme une carte de chef probatoire.
Je dis, toi. Puis là, si on se fait au dernier sondage, d'après moi, il va rester en probation. Mais ça sera pas long.
Ça aurait jamais passé avec M. Legault, ça.
Jamais!
Non.
Jamais quelqu'un aurait pu... Il se serait fait regarder avec des gros yeux.
Effectivement.
On se rappelle qu'en point de presse, à un moment donné, il avait même déjà dit à sa femme, « C'est moi qui parle. »
Ben oui.
Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça, ça avait fait les
cotes
dans les médias. Mais tu sais...
Le patriarcat.
C'est ça, je sais pas l'image que ça diffuse, effectivement, de M. Milliard. Aujourd'hui, on essaye de rebondir sur la situation puis d'en profiter. Honnêtement, moi, être Moncef Déragé, je sors de ce point de presse-là... Et je fais un brin d'introspection là, en me disant « Je voulais vraiment parler, mais là, j'ai vraiment mal fait paraître mon chef dans un moment où est-ce qu'on a tout ce qu'il faut de notre bord pour shiner. »
Ben oui.
J'espère.
C'est eux autres qui ont eu le document en main.
Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Ouais. C'était très impulsif comme geste, mais ça n'a pas servi le parti du tout.
Parce que la ligne de Charles Milliard, écoutez-moi bien, j'ai dit à Marois Risky que j'attendais la fin des enquêtes. J'attends la fin des enquêtes, dossier clos. Mais l'autre dit, hey, attends, tasse-toi le chef. Moi, je vais expliquer que ce lanceur d'alerte-là est meilleur que Marois Risky, lanceur d'alerte.
Et
ben, c'est ça. Il est au service de la vérité. Moi, je trouve ça bien correct.
Ben, moi aussi. Je veux la vérité.
Non, mais en plus, savez-vous à quoi ça me fait penser?
On dirait que c'est
scripté. En passant par texto, ils ont dit que t'as shooté Top Corner quand tu m'as dit là maintenant.
Ben oui. Ben oui. Mais je vous dis, on dirait que c'est scripté ce débat-là.
Donc, ça ne l'est pas à part de ça. Puis c'était tout du vrai. On peut le garantir.
Mais
t'as
bien placé, là. Moi, je suis capable d'avouer qu'un argument est bien placé.
Non, puis c'est pas parce qu'on débat.
Ben non. Moi, je l'ai dit, j'adore débattre.
Puis moi, je suis pour ça, des sains débats où est-ce qu'on met toute sa table, puis c'est super sain. Moncef Déragé qui tasse Charles Milliard pour dire son commentaire, ça me fait quand même penser à quand il s'est fait faire le contraire par Pablo Rodriguez l'automne passé. Quand Pablo Rodriguez est arrivé, premier point de presse, et là, on parle de la SAC, et vous savez comment Moncef Déragé, depuis libéral, avait fait un super travail sur sa clique.
Vraiment?
Et là, il s'était fait un petit peu tasser du dossier. Et Pablo Rodriguez est allé dire sensiblement un peu le contraire de ce que Moncef Déragé disait depuis plusieurs semaines. Fait qu'on dirait qu'il s'est comme revengé, mais pas sur le bon
chef. Pas sur le bon, il s'est revengé sur Charles Milliard. Rapidement, pour terminer le caucus, la CAQ en avance dans la région de Québec. Parce que là, t'es épluché le sondage d'hier. 29 % de vote pour la CAQ, c'est plus 7 par rapport au dernier sondage.
Ouais.
27 pour les conservateurs, c'est plus 2 % et 24 pour le PQ, c'est moins 9 %.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais qu'on n'a jamais été souverainiste dans la région de Québec, mais là, la CAQ. Premier rang. Est-ce que les gens ont oublié les huit dernières années de la CAQ?
Ça va peut-être retomber, parce que là on s'entend que cette semaine, ça n'a pas été facile.
Depuis 8 ans, moi, je regarde dehors là, du studio, on a une super belle vue sur Québec, puis j'ai un... Non, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Non, il n'y a absolument rien qui s'est fait. Là, je regarde à l'est. Ah, pas de troisième lien. Je regarde au centre-ville.
Il y a le tramway, mais on a l'impression qu'il s'est fait un peu malgré la CAQ. Qu'il n'était pas chaud à l'idée.
Ça que j'allais dire. Je regarde au centre-ville, il y a des travaux. Ouais, c'est parce que le train serait censé rouler.
Ouais. Écoute, j'ai un peu de difficulté à me l'expliquer. J'ai l'impression que Mme Fréchette plaît. Quand même, on l'entend, que les gens veulent lui donner chance à la coureuse. Là, c'est sûr que quand il y a des affaires qui sortent comme cette semaine qui faisaient partie de son dossier, dont elle ne peut pas se dégager complètement, puis là, je parle évidemment de la filière batterie, ça risque d'avoir un impact, évidemment. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment le PQ qui redescend, parce qu'on avait comme une course à deux jusqu'à récemment entre le Parti conservateur et le PQ dans la région. Et là, vraiment, la CAQ redevient compétitive. Là, 29, 27, 24, je pense qu'on peut parler d'une course à trois dans la région. C'est sûr que le PQ, ça fait longtemps que le PQ n'a pas pogné à Québec.
C'est
donc, on revient vers une situation peut-être un peu plus « normale », entre guillemets. Je me suis demandé aussi si la sortie du TGV cette semaine, le sondage qui est pris en considération, c'était pas encore arrivé, là. Mais je me demande, j'entends beaucoup de gens qui m'en parlent, qui m'envoient des commentaires là-dessus. J'ai mes voisins, écoute, on a croisé les voisins qui nous disaient « on pensait voter pour le PQ, mais l'histoire du TGV, ça nous a vraiment refroidi, on comprend pas, ils sont impulsifs.
Yes. » Donc, le Canada qui s'infiltre dans nos choses.
Oh, le train libéral de l'unité canadienne. Donc, on verra ce que ça donne, mais la CAQ est redevenue compétitive. Christine Fréchette est à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec
ce soir, gros rendez-vous.
Et je me demandais quel message elle va lancer aux gens de Québec. Parce que l'impression généralisée, et c'est ta perception, mais quand tu regardais par la fenêtre, c'est ce que tu nous disais, c'est que la CAQ...
de Champlain, phase 4? Ah non, c'est pas fait. On peut t'en nommer plein de projets, là.
Exact. Il y a eu, pendant un bout de temps, on était supposé d'avoir un pôle d'innovation, un mini-hôpital privé. Il y a beaucoup de projets qui sont tombés dans l'oubli.
Juste un pont d'étagement n'a pas été fait ici, au coin de Bonneuf-Robert, vous rassure.
Ouais, donc,
c'est tout dire, là.
Quel bilan va-t-elle aller défendre?
En effet.
Bon. Peut-être qu'elle va plutôt miser sur l'avenir. C'est juste que quand tu as été 8 ans au pouvoir, c'est sûr que tu arrives avec un bilan. Il y a des choses qui ont été faites. On verra si elle réussit à changer la perception.
Si j'étais elle, moi, j'arriverais puis je viens d'aller chercher 10 milliards au fédéral. On a le tramway.
Exactement.
Je viens de débloquer le PEC. C'est pour vous autres. Le maire Marchand me le demandait. T'sais, j'arriverais plus dans des... chose qu'elle a fait dans un court laps de temps, parce que ça, tu sais, pour être bon joueur, elle en a fait des choses pour la région de Québec dans un court laps de temps.
Oui, elle en a fait, puis le gouvernement aussi, tu sais, il y a des choses qu'on a oubliées, mais puis là, les gens vont peut-être dire c'est pas comme un troisième lien de plusieurs milliards de dollars, mais tu sais, le Musée national de l'histoire du Québec, ça va être à Québec. Tu sais, il y a des choses qui ont été faites, mais ce qui a marqué beaucoup, évidemment, c'est le tango sur le troisième lien.
C'est
les années aussi, tu sais, par rapport au tramway, qu'on soit pour ou contre, les années avec Geneviève Guilbeault comme ministre de la Capitale-Nationale, avec la relation qui n'était pas toujours facile avec la Ville de Québec, c'est aussi, je pense, un élément qui a marqué les esprits dans la région.
Ah oui, on à un moment donné, c'est devenu, je pense, une guerre personnelle entre Bruno Marchand et Geneviève Guilbeault. Tu sais, pour de vrai, là, on entendait Bruno Marchand en point de presse, on entendait Geneviève Guilbeault en point de presse. C'était très, très, très tendu. Une petite dernière minute pour Denis de Belval, cet ex-ministre dans le premier gouvernement de René Lévesque, qu'on connaît bien ici à Québec parce qu'il s'est impliqué dans plusieurs dossiers publics, qui, dans une chronique avec Karine Gagnon, Journal de Québec, dit « Je reconnais plus mon PQ dans le dossier du TGV, puis je vais sûrement voter autre que le PQ, c'est signe à quel point c'est une erreur monumentale. »
Écoute, c'est un symptôme, là. C'est une personne, puis des gens qui ne reconnaissent plus leur parti de là, 35 ans,
ouais.
Je veux dire, c'est dans la normalité des choses. Mais vraiment, la question du TGV, je l'ai pris à l'envers cette semaine, la prise de position du PQ, parce que je trouve qu'il soulève des enjeux qui sont légitimes et importants, notamment sur le fédéral qui fait des projets. D'habitude, ça finit en fiasco financier aussi, là, soyons très, très clairs. Les problèmes avec le tracé, il y a toutes sortes d'enjeux. Mais pourquoi sortir si fort là-dessus cette semaine?
Ouais.
des votes dans la région fort bien, obliger les autres à se positionner. Mais mettons qu'il ne l'avait pas fait, là.
Ouais, c'est
Jeff,
ça.
Son premier d'un sondage.
Ben, exactement.
Y aurais-tu descendu d'un sondage?
Ben non. Surtout quand tu sais que la vérificatrice générale va faire son rapport
sur
mercredi.
Sa filière batterie.
Sa filière batterie. Puis toi, mardi, tu décides de prendre tout le plancher avec le TGV. Comprends pas.
Tu sais, il y a vraiment quelque chose de difficile à comprendre.
En effet.
Puis je me dis, s'il l'avait fait cet été et mieux dosé,
mm-hmm.
Tu sais, mettons, tu pars en tournée dans la Naudière, Laurentide, Mauricie, là, où est-ce que le monde est un peu choqué, là, puis tout ça.
En effet.
Je comprends.
Mais à l'Assemblée nationale.
Puis beaucoup, beaucoup de gens qui sont pro-transport collectif sont fâchés de la position du PQ. Tu sais, le PQ s'est positionné pour le tramway contre le troisième lien.
Hey, fait que là, je comprends plus rien, moi. Ils sont pro-transport en commun, mais ils se positionnent contre le TGV.
Parce que ça va en Ontario.
Puis le PCQ est pro-économie, mais va contre le TGV. Aussi, je comprends plus rien.
Ben c'est ça. C'est que le PCQ est contre le transport collectif, puis le PQ est contre l'Ontario.
Ouais,
c'est ça, j'ai compris.
Le PCQ est pour
moi qui
l'économie. Remarque que le PCQ compare des pamplemousses aux boissons énergisantes.
Oui.
Bon. Que...
Ah, il est temps que ça finisse, cette session parlementaire-là. On est-tu d'accord?
Finalement, on n'en veut pas une semaine de plus.
Non, non. Hey.
Mon cerveau va exploser.
Non, mais Jeff, t'as tellement raison. J'entendais des gens dire on devrait continuer de siéger jusqu'au 19 juin.
Non.
Ça arrivera pas.
C'est assez, le cirque est terminé, les amis. Retournez dans vos circonscriptions. Donnez-nous un show en campagne électorale.
On a besoin d'un break.
On en a assez, de toute façon. Simon-Jolin Barrette qui broille pour sa constitution chaque matin, chaque midi, à chaque soir. C'est correct, c'est assez. Le théâtre d'été est terminé.
On farme.
Par texto, on a dit, il est bon ce show-là à midi. Ben écoutez-nous à chaque midi.
C'est
on
bon même tout le temps.
On en jase avec le caucus, avec Antonine Yacariné.
Merci à notre arbitre, Nathan Meilleur.
Oui. Arbitre et critique aussi. Là, je vais écrire un article sur le boulevard.fm qui va s'intituler « Deux pouces en l'air ».
Tu checkeras.
Oh,
c'est excellent.
Tu checkeras, il va y avoir un débat des chefs sur Crave. Et d'après moi, il cherche un modérateur.
Ça me ferait plaisir.
Tu pourrais peut-être donner...
Je commence à être bien rodé.
Ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve, en passant.
Mais
qu'il y ait des débats supplémentaires.
Ben oui, parce que là, c'est un qui va être sur Nouveau et sur Crave, qui n'avait pas.
Puis en plus, sur Crave, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui n'écoutent plus la télé, pour dire la vérité. Fait que c'est un médium différent pour rejoindre des gens.
Quel bon... plus jeune, peut-être.
Exactement.
Un peu.
Ouais. Quel bon moyen d'aller chercher la jeunesse. Mmh. Moi, j'ai adoré cette initiative-là. Donc, on fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on va vous revenir avec... les informations à savoir dans cette journée de fou où on vient de s'astiner sur le lanceur d'alerte. Mais il y a d'autres choses que le lanceur d'alerte. Et par la suite, dans la deuxième heure, il y a Lanny Dufour qui va être là pour sa chronique économique. Boulevard, vas-tu faire des débats pour la campagne électorale par texto? Oui, c'est clair qu'on va en organiser. Puis ici, on en jase, j'ai déjà promis que j'allais rassembler les candidats dans Jean Talon, parce que et Julie White et Pascal Paradis m'ont dit oui, les candidats respectifs pour le Parti québécois et le Parti libéral.
Moi, c'est mon
libéral.
Comté, donc je vais avoir des questions très pointues pour eux autres.
Dans Tachereau, Étienne Grandmont et Farnel Morisson ont déjà accepté aussi. Donc en jase, on aura Tachereau également. Alors oui, on va faire des débats. C'est convaincu, animé par moi, Antonine Yacarini et les autres gens qui seront dans l'émission. On en jase.
On jase jusqu'à 14h. Froid. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Ouais, si vous n'étiez pas au courant qu'on jase, mais on a jasé dans le dernier 45 minutes. Bon débat avec Antonine Yacarini sur les lanceurs d'alerte. C'est la grosse nouvelle de la journée. Congédiement d'un fonctionnaire, Olivier Smith-Lauzon, qui a filtré des informations à des journalistes concernant ce cafouillage $1 milliard pour la filière batterie de la CAQ. Il a été congédié après enquête de l'UPAC. Christine Fréchette a dit qu'il était congédié avant lui, mais elle a dit non, je ne me suis pas impliqué dans le dossier. Ouais, ça me laisse des doutes. Mais que veux-tu? C'est comme ça la vie. Donc, à la météo aujourd'hui, c'est une super belle journée, 26 degrés, mais 60 % de possibilité d'averse parce qu'on le voit, c'est hyper humide. C'est 37 degrés avec l'humidex. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, nappe de brouillard au cours de la nuit. Demain, vendredi, c'est 26 degrés, 40 % de possibilité d'averse. Mais la bonne nouvelle, c'est que samedi annonçait de la pluie. Bien, c'est rendu full soleil à 26 degrés. Parlant de samedi, il reste encore des billets disponibles. Golden Opportunity de la NSPW. C'est une commandite de boulevard 102.1. Rendez-vous en grand nombre. Je vais être là, d'ailleurs, si vous me croisez. N'hésitez pas à me jaser. C'est ma sortie de Boys avec mes deux garçons, Elliot et Edouard, qui ont dit « Papa, On n'invite pas d'amis. C'est notre sortie à trois gars annuelle d'aller à Golden Opportunity. Fait qu'on va manger au Blackstone avant. Ça va être une superbe soirée avec mes garçons. J'ai bien hâte. Parlant de mes garçons, c'est des amateurs de sport, Nate. Puis hier, on a vécu un moment extraordinaire, une première dans l'histoire de la NBA. On écoute.
Brunson gets it, fires up a three. Shot no good, the tip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining! Knicks take the lead! OG Anunoby, and it's 107-106!
Les Knicks de New York sont la première équipe de l'histoire à faire une remontée de 29 points en deuxième demi. Première équipe dans l'histoire de la NBA et ils l'ont fait au quatrième match de la finale. Ils perdaient par 29 points. Il restait 8 minutes à faire au troisième quart. Et avec 1,8 secondes à faire, OG Anunoby a sauté sur un rebond pour mettre le ballon dans le panier, l'ancien Raptors. C'est 3-1 Knicks dans la série.
Il n'y a pas un autre record qui a été battu aussi. C'est pas le plus grand nombre de points effectués dans un premier quart du côté des Spurs.
Du côté des Spurs, dans une première demi, 72 points ça, en première demi. C'est un record de finale de la NBA.
Imagine que tu es un joueur des Spurs le matin.
Ouais.
Tu te dis, on avait un record qui est éclipsé par un autre record et une défaite qui nous accote au pied du mur. En plus. Tu dois être. Parce que tu finis ton premier quart, t'es crinqué quand t'arrives dans le vestiaire.
C'est
là. T'es comme, à demi, en fait, t'es crinqué. Là.
Ben
t'es
écoute,
comme, c'est réglé ce match-là. Là. C'est
Max
Larouche
dit je me suis couché à demi. Moi, je me suis couché après le premier quart parce que j'étais fatigué. Tellement que les Spurs étaient en contrôle, je dis, ça va être 2-2 dans la série. Je garde mes énergies pour samedi soir, le match.
Ben, j'espère.
En revenant de Golden Opportunity. Et là, bingo, remontée spectaculaire des Knicks. Les Knicks, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en série, ils avaient battu un autre record. Perdaient par 22 points au quatrième quart contre les Cavaliers de Cleveland dans le premier match de la finale de conférence. Puis ils avaient comblé l'écart à New York aussi. Fait que les Knicks sont sur une balloune. Les Spurs, à leur défense, parce que Charles Barkley était très dur. Charles Barkley, un ancien joueur vedette de l'NBA avec les Sixers de Philadelphie, analyste au réseau ESPN en disant que c'est l'équipe la plus stupide qu'il avait vu jouer de sa vie.
Oui.
Mais les Spurs de San Antonio, tu sais, le groupe de joueurs à l'heure actuelle, c'est le groupe le plus jeune de l'NBA en série.
Ouais.
Donc, malheureusement, les gars ont mal géré cette situation-là. Tandis que les Knicks sont bourrés de vétérans. Carl Anthony Towns, OG Anunoby, Jalen Brunson, Jason Hart. C'est tous des vétérans qui sont là.
C'est
ça a fait la différence.
C'est sûr que oui, parce qu'à partir de là, dans n'importe quel sport, quand tu es capable d'avoir des vétérans dans le vestiaire qui sont déjà passés par là, qui connaissent la trail puis qui sont capables de regarder les plus jeunes puis de leur dire... Tu sais pas exactement dans quoi tu t'embarques en ce moment-là.
Exactement.
On part dans une run pour les séries. Puis c'est un sport qui est excessivement exigeant physiquement aussi. T'sais.
Oui.
Le hockey prend beaucoup de place chez nous, le football aussi. Puis évidemment, parce qu'il y a contact physique, on a l'impression que... Mais honnêtement, les gars sont maganés rendus là.
Tu sais,
c'est des grands gars, c'est énormément d'impact, c'est du stop and go sans arrêt. Physiquement, te rendre là, il faut que tu sois
sont tout le
au
temps
sommet
sous
de ta
le
forme. Ben oui.
D'ailleurs, Charles Barkley, c'est ce qu'il a dit. Il a dit les Spurs ont joué de façon stupide parce qu'ils ont tenté 8 tirs de 3 points consécutifs en m'emmenant au quatrième quart, alors qu'il avait juste besoin d'aller chercher un ou deux points pour garder l'écart.
Ben oui.
Mais je pense que ce que tu dis là, ça explique. On n'a pas voulu aller jouer à l'intérieur parce qu'on a mal physiquement. On avait un bon match aux 3 points, donc on a fait confiance à ceci. D'ailleurs, le basketball a changé depuis Stephen Curry. Là, il y a beaucoup plus de 3 points.
Énormément. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui suivent un peu moins le basket, parce que ça fait 2 fois que tu nommes son nom, M. Barkley, puis là, vous vous dites, je sais pas c'est qui. Vous savez c'est qui. Parce qu'il était dans Space Jam.
Et voilà.
Il a joué dans Space Jam aussi, aux côtés de Muggsy Bogues et de Michael Jordan.
Ouais.
Donc, vous savez qui est cet homme, effectivement, qui est rendu un analyste sportif connu et reconnu.
Alex qui nous écrit « Quel match était complètement fou! » Ah oui, un match de fou. Parlant de sport, de série folle, les Hurricanes de la Caroline et les Golden Knights de Vegas, on vous en parlait hier, c'est une des meilleures finales de la Coupe Stanley depuis énormément d'années. Eh bien, le 5e match est ce soir, 20h, sur les ondes de TVA Sports. Le match se déroule en Caroline. Donc, c'est 2-2 dans la série. Le 6e match sera dimanche soir parce qu'on sait, on n'est pas venu en compétition avec les NBA. Qui va jouer, eux, samedi soir? Et amateurs de ballon rond, c'est à 15h que ça commence.
Oui.
La Bosnie contre le Canada. Coupe du monde, c'est le lancement officiel de cette Coupe du monde. Canada, États-Unis, Mexique. Moi, honnêtement, je suis rivé devant mon téléviseur. J'adore ce genre d'événement-là. Le Canada pourrait gagner son premier match à vie en Coupe du monde masculine. C'est vraiment tout qu'un événement, donc soyez attentifs. Le tournoi se déroule sur les zones d'RDS.
Et ce qui est pas pire aussi pour le Canada, parce que j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux hier, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme, comme exercice. La communauté italienne qui est importante aussi ici oui. dans la ville de Québec, mais on s'entend du côté de Montréal, beaucoup plus représenté quand même, puis on est allé interroger les Italiens dans le quartier italien, donc du côté de Montréal, pour leur demander, parce que même si on a augmenté le nombre d'équipes au tableau, bon, les Italiens n'ont pas réussi à se classer, ce qui est historiquement quand même assez, assez majeur, mais c'est arrivé aussi lors de la dernière ou de l'avant-dernière Coupe du Monde. C'est pas la première fois, bref. Mais évidemment, la communauté italienne qui se dit bien déçue, mais qui décide de se ranger derrière le Canada pour cette Coupe du Monde. Fait qu'on a des supporters de plus
ça, c'est cool.
un peu de notre bord aussi. Puis même si vous n'êtes pas fan de sport, un exercice que j'ai fait à la dernière Coupe du Monde, c'est d'écouter un match avec un ami qui est fan.
Okay.
Ça, ça change la game complètement. Parce que peut-être que vous vous dites que ça ne vous intéresse pas. C'est peut-être bien le cas, c'est bien correct de même aussi. Mais honnêtement, d'être assis avec quelqu'un qui va prendre le temps de t'expliquer les règles au fur et à mesure, puis pourquoi cette tactique-là, cette stratégie-là, la façon dont l'équipe joue, c'est intéressant d'analyser. Ça change vraiment la perception qu'on a sur un sport. Puis là, on parle de soccer, évidemment, mais tout sport confondu, ça peut être intéressant. Tu sais, un premier bon match de tennis dans ta vie, ça va être parce que tu es assis à côté de quelqu'un qui te l'explique
c'est
comme il faut.
Qu'est-ce qui vient de se passer,
puis c'est quoi une balle de bruit. Puis, si vous avez la chance de vous asseoir puis d'écouter un match avec quelqu'un dans votre entourage qui connaît ça un peu plus, ou si vous n'avez pas ça, allez dans un bar sportif. Puis faites exprès pour essayer de vous immiscer un peu avec une gang.
C'est ça. Puis là,
ça vaut vraiment la peine, là.
T'as entièrement raison.
Juste de comprendre comment fonctionne la défensive là, au soccer, puis le fait que tu dois faire reculer les joueurs de l'équipe adverse.
Moi, j'ai appris à apprécier le soccer quand j'ai été président d'honneur du défi Tricarré à Charlebourg.
Pendant
deux années. Moi, je suis pas un gars de soccer
pantoute. Okay.
C'est Anne-Marie, une auditrice, qui m'approchait. Elle disait, hey, tu t'impliques dans plein de choses, ça te tente de t'impliquer? Oui. Puis là, ben, pendant le tournoi, veux pas. Là, moi, j'ai plein de craques de soccer autour de moi dans l'organisation. Hey, pourquoi qu'il joue le même? Pourquoi qu'il fait ça? Alors, ça me permet maintenant d'apprécier ce sport.
Tu peux analyser davantage
Exactement.
Le sport que tu as sous les yeux. Ça vaut
nouvelle
la
de dernière minute en sport. Pascal Vincent, qui était l'entraîneur du Rocket de Laval, je dis était parce qu'il vient d'être embauché par le Kraken de Seattle à titre d'entraîneur adjoint. Donc, le Canadien de Montréal qui perd son entraîneur des filiales, qui faisait un excellent travail avec le Rocket. On se le cache pas. Alors, ça va être intéressant de voir. Normalement, le Canadien fait place à un francophone dans sa filiale. Alors, bien hâte de voir qui va passer justement en entrevue. Dans à peu près une vingtaine de minutes, on va avoir le vice-premier ministre, Yann Lafrenière, va être capable de s'être libéré. Donc, Nathan, on va passer directement aux nouvelles.
Oui, écoute, ce qui retient beaucoup, évidemment, l'attention aujourd'hui, je reviens brièvement là-dessus parce que vous l'avez... couvert avec un magnifique débat, Antonin et toi, il y a quelques minutes. Ce fonctionnaire du ministère de l'Économie, Olivier Smith-Lauzon, qui affirme avoir été congédié après avoir dénoncé les risques financiers liés aux investissements du gouvernement dans la filière batterie, notamment les dossiers Nordvolt et Nemaska, lithium, soutient avoir agi dans l'intérêt du public et transmettre certaines informations à des journalistes et à la vérificatrice générale. Évidemment, le moment qu'on a passé, entre autres, avec son représentant syndical sera déposé sur le BLVD.fm.
Oui, avec Guillaume Bouvrette.
Avec M. Bouvrette, si vous l'avez manqué. Ça vaut vraiment la peine de réécouter ce moment-là. Et c'est correct d'avoir de la difficulté à se positionner dans ce dossier-là, dans le sens où est-ce que, oui, clairement, du côté de M. Smith-Lauzon, on a agi en suivant ses valeurs.
Oui.
Je me permettrais de le dire de cette façon-là, mais il y a quand même des règles à suivre, évidemment, quand on dévoile comme ça des documents qui sont très sensibles. Sinon, le projet de constitution québécoise de la CAQ ne sera pas adopté avant la fin de la session parlementaire et mourra donc au feuilleton. Le ministre Simon-Jolin Barrette qui attribue cet échec au manque de temps et à la partisanerie des oppositions. Ces dernières reprochaient notamment au gouvernement d'avoir rédigé le projet sans consultation préalable. Le ministre soutient toutefois que les textes ne contenaient rien de problématique et qu'ils auraient pu être adoptés. Donc, je pense que c'était la dernière fois qu'on vous en parle.
Oh oui, voilà.
Ce projet de
constitution-là. C'est terminé pour la Constitution.
Sinon, c'est du côté de Lévis. Jeff, une tentative de meurtre qui fait l'objet d'une enquête. C'est un homme dans la vingtaine qui a été violemment agressé ce matin devant sa résidence du secteur Saint-Romuald. Selon le service de police de la ville de Lévis, un homme et une femme l'auraient frappé à la tête avec un objet contondant avant qu'une tentative de poignardage ne soit commise. Les deux suspects ont pris la fuite. La victime a été transportée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie au moment où on se parle. La police croit qu'un conflit entre les personnes impliquées serait à l'origine de l'agression et écarte pour l'instant un lien avec le crime organisé. Est-ce que tu m'en permets une petite dernière?
Ben oui,
parce que je trouve
qu'elle
est vraiment importante, cette nouvelle-là, puis peut-être qu'on en parlera tantôt. Mm-hmm. Peut-être qu'on en fera un sujet, on verra
Voici
si on
donc.
Tasse quelque chose. À compter de la rentrée 2027, les écoles primaires du Québec ne pourront plus utiliser les résultats scolaires pour sélectionner les élèves dans des programmes particuliers.
OK, c'est comme, intéressant.
Vraiment, comme les profils sportifs, artistiques ou musicaux, c'est la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, qui souhaite rendre ces programmes plus accessibles et réduire les critères basés sur la performance scolaire. Une révision des règles d'admission est aussi prévue au secondaire. Québec affirme vouloir offrir à davantage d'élèves la possibilité de développer leur plein potentiel et répondre aux critiques visant ce qu'on appelle
Donc,
souvent
le système
scolaire.
Est-ce qu'on va le faire plus de façon géographique?
Est-ce que ça sera géographique? Est-ce que ça pourrait être par différentes applications? Est-ce que ça pourrait peut-être être en mode entrevue même?
Oui, c'est
carrément
vrai.
Carrément avec les... Ben, peut-être pas au primaire, mais peut-être qu'au secondaire, ça pourrait être en mode entrevue puis voir que, bon, il y a un candidat qui a peut-être plus de difficultés en mathématiques, par exemple, mm-hmm. mais le petit gars ou la petite fille est vraiment crinqué. Puis, lors de l'entrevue, il est capable de nous convaincre que, moi, je sais que si j'ai le sport ou si j'ai la musique dans ma vie à l'école, ça va Je vais rester à l'école, puis ça va me forcer. Ça va m'obliger à me forcer pour augmenter mes résultats mm-hmm. en mathématiques. Ça va être à voir comment ça sera fait. Mais ce fameux système scolaire-là à trois vitesses qu'on appelle là, depuis un certain temps, tente quelque chose mm-hmm. pour réviser là, justement la façon de faire puis rendre le tout plus accessible.
Notre chroniqueuse économique, Lanny Dufour, vient s'installer dans quelques minutes en studio. On va parler de cette réouverture du PEC et également de la cible pour les véhicules électriques, la vente de véhicules électriques qui est réduite à 80% pour 2035. Émission d'Angers, ton rendez-vous du midi, ton rendez-vous d'actualité. Aujourd'hui, on parle un peu plus d'actualité par rapport au gouvernement provincial parce que c'est la fin de la session parlementaire, une fin de session en accéléré. Meilleure façon de nous écouter, c'est notre application BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. C'est gratuit. Vous le savez parce qu'on vous a vu réagir pas à peu près durant notre débat avec Antonine et vous continuez de réagir. Il y en a beaucoup qui rient de l'Italie qui n'est pas en Coupe du Monde pour une troisième fois consécutive. Ça fait mal en crime pour les Italiens, ça.
Ça va pas même. Surtout qu'on a augmenté le tableau, là.
Ben, c'est
On est passé de quoi? De 36 à 42,
oui,
équipes?
Oui, exactement. Ah non, c'est un fiasco là-bas.
Il y a des gens
là-bas.
Qui disaient que c'était pour ça qu'on avait fait ça.
Ouais.
Qu'on augmentait le tableau pour donner
pour
plus de chance aux Italiens. Non, non, c'est pas drôle, là.
Non, c'est un fiasco là-bas en Italie. Le soccer, le foot. 418-971-102 pour continuer à intervenir avec nous. On rejoint immédiatement, elle est là avec nous en studio, habillée de blanc pour la paix, la directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communication, notre chroniqueuse économique, Lanny Dufour. Lanny, comment vas-tu?
Salut, ça va bien.
Ça va très, 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 très bien. Tu étais à Lévis ce matin, le maire Blainé qui a dit... Ça va prendre 3 ans et demi avant que nos usines d'eau soient réparées, puis après ça, on va faire de la construction.
Exact. C'est un événement économique pour faire un bilan mi-année mm-hmm. et comment passer un bilan économique sans parler au maire. Donc, il était invité, il faisait partie du panel. Et là, bien, c'est sûr qu'on ne pouvait pas le protéger puis ne pas parler du moratoire.
Ben, c'est clair.
Fait qu'on a posé des questions, mais c'était vraiment une formule très... je dirais chaleureuse, là. Mm-hmm. Pas trop froide. On jasait un peu, tout le monde en parle, mais pas trop stagé. Les gens n'avaient pas eu les questions d'avance. Puis ça, tu sais, je vous le dis, dans les événements, c'est rare quand même.
Ouais,
mais là,
ouais.
On voulait vraiment garder ça pour que ce soit du concret, là, le pouls des entrepreneurs. On a parlé d'itinérance, mm-hmm. de reprenariat. C'est vraiment intéressant.
Ah, c'est cool.
Puis ben, le maire, c'est ça. C'est le seul élu sur le panel dans les 6.
Ouais.
Fait qu'il s'est fait quand même challenger. Puis il était bon joueur. Là,
ben, il est, capable de la prendre, la chaleur, Stephen Blainé. Puis il y a un côté humain que je lui connaissais pas. Et je crois que ça va faire en sorte qu'il va être capable de passer à travers cette tempête-là, parce qu'on s'entend, il a récupéré un bon panier de crabes, là.
Oui, c'est ça. Puis il a pas le... Dans le sens, il arrive avec un passif qui n'était pas le sien.
Exactement.
À l'inverse de Mme Fréchette, qui a un peu mis la chaleur sur son prédécesseur.
Ah lui, oui, j'ai pas compris ça.
Ah
hier.
Ouais, non, OK. On parle ici
de la filière batterie. Ben, c'était pas moi qui était là quand c'était le temps de prendre ces décisions-là. On résume ça à ça. Allez voir Fitzgibbon et Legault.
Mais en même temps, tu sais, c'est... Puis là, écoute, c'était pas... C'est pas dans les sujets, mais...
Non, frère,
c'est... C'est normal qu'elle fasse ça.
Ben oui.
Tu peux pas arriver puis augmenter dans les sondages, tu sais. Oui, tranquillement, mais quand même, on voit une progression puis vouloir partir en campagne, mais avoir un boulet comme ça.
Exactement.
Fait que sûrement, écoute, je suis pas dans le secret des dieux, mais sûrement qu'il y a eu un appel qui s'est fait dire, écoute, je suis désolée, mais c'est toi le coupable aujourd'hui. Puis,
ben, c'est clair. De toute façon, la CAQ...
Il y a rien à... Lui, il n'y a plus rien à gagner.
La CAQ reste le bébé de François Legault.
C'est
fait que si François Legault veut que son bébé survive, ben, à un moment donné, il faut qu'il soit capable de prendre des coups
c'est
aussi.
Ça.
Là.
Ouais. Hein? Mais tu sais, est-ce que vous êtes du même avis que moi que quand ça a sorti cette nouvelle-là hier, je me suis fait la réflexion en fin de journée en plus de me dire, imaginez s'il n'avait pas pris la décision de quitter, de s'en aller, à quel point là, en fin de session parlementaire comme ça... Vu
oh, ça
le
mais l'ambiance est déjà, je dirais, en fin de régime. Là. Les parlementaires, les discussions, notamment sur la Constitution, c'était drabe cette semaine.
Ouais.
Là, on est vraiment en accéléré. Finalement, pendant que, avant qu'on se parle, le projet de loi sur les boissons énergentes a été adopté.
Oui, très bonne
fait
nouvelle.
Ça s'est fait en accéléré. C'était vendredi dernier que ça a été déposé. Fait que, tu sais, quand les gens travaillent ensemble, c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont capables de passer des affaires. Je pense pas qu'il faut bypasser nos remparts puis dire... On fait ça pour tous les projets de loi, notamment justement Constitution, que là, on a tiré la plug, puis on a dit « ça marchera pas, on y arrivera pas », parce que c'est tellement gros. Mais pour une affaire comme les boissons énergentes, où est-ce que justement c'est une question plus humaine, puis que personne peut être contre la vertu, là, tu sais, on parle de quelque chose qui est social, qui est logique.
Ben oui.
Les indépendants ont voulu faire un peu un show avec ça, mais finalement, tu vois... L'opinion publique n'a pas embarqué, puis ça les a rattrapés.
Exactement. La loi Gabi-Renault aussi qui a été adoptée. On va en parler d'ailleurs avec Yann Lafrenière aux alentours de 13h30. C'est le ministre de la Sécurité publique et le vice-premier ministre.
Tu t'es trompé? C'est Sécurité intérieure?
C'est vrai, c'est Sécurité intérieure maintenant. T'as raison, ça a changé.
Ouais.
Merci de me remettre à l'ordre.
Non, mais c'est parce que je trouve ça... C'est la première fois que je vivais un Sécurité intérieure. Ça fait très européen.
Oui.
C'est exotique. On aime ça.
Oui, ça fait très protection de territoire. Ça fait très américain aussi, je te dirais.
Oui,
ouais,
t'as
entièrement raison. Hey, parlant d'Europe, on attire énormément d'immigrants français. Là, on les avait bousculés en leur disant « Le PEC n'existera plus. Ça va être le PSTQ, le programme pour les emplois spécialisés au Québec. » Christine Fréchette a dit en campagne à la chefferie, si je suis élue, je rouvre le PEC pour une période de 2 ans. C'est chose faite. Elle l'a fait hier. Je trouve que c'est une bonne chose parce que moi, j'ai parlé à plusieurs personnes en nombre des migrants qui viennent de la France, qui ont établi leur famille ici, puis qui disent, hey, Caroline, il faudrait que je reparte dans mon pays, ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, ce que je trouve qui n'a pas de sens aussi, c'est François Bonnardel hier qui nous dit, bah, je sais pas combien de monde vont appliquer.
Mais il s'est un peu, je dirais, c'est parce que pourquoi il est allé dire ça, c'est qu'avec le PSEQ, il faut être invité. Fait que ce qu'on voulait faire comme décision, c'est que dans le fond, il y a 2 comme programme. Là, on ne met pas sur pause le PSEQ qui vient remplacer pour régionaliser. Mm-hmm. On vient juste le ralentir parce qu'au final, que les 2 programmes vivent en parallèle, on ne change pas le seuil. Fait que notre tarte, c'est la même, c'est juste qu'on la divise. Un 3/4, 1/4, là, mettons, on peut se dire ça comme ça. Fait que ce qu'il voulait dire, c'est les gens qui veulent faire une demande vont pouvoir le faire. Il n'y aura pas de restrictions comme le PSEQ parce que le PSEQ, il faut avoir certains critères, on a des points, puis là, ça nous permet de pouvoir se qualifier. Par contre, le PEC, ce qui était négatif, puis étant en région, l'enjeu, c'est que ils régionalisent pas. C'est justement ouvert à tous, un peu buffet des continents.
Un peu n'importe comment. Fait que ça veut dire que sur le PEC, par exemple, si je suis ta logique, il pourrait avoir 15 000 personnes qui sont acceptées ici dans la région de Québec, mais juste 3 au Saguenay.
En fait, il n'y a pas de code postal avec le PEC.
OK.
Fait que tu fais une demande, mais tu peux être où tu veux. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça fait?
Bien, ça fait en sorte.
Sont à Montréal, sont à Québec, à limite ou à Laval.
Bien, exactement, ça fait en sorte que je vais donner un exemple, je pense, qui est réel. On vient d'annoncer l'agrandissement de l'hôpital de Malbaie. Mais ça se peut qu'on n'ait pas de personnel pour cet agrandissement-là.
Mais là, il y a une exception, par contre, pour la santé, parce que ça, là, on tombe dans le fédéral avec le PTEQ. Écoute, c'est très compliqué. J'ai quelques mandats là-dedans, fait que c'est sûr que ça me permet d'apprendre un peu en accéléré, mais je suis pas du tout une experte en immigration. C'est complexe. Puis je sais qu'au final, tu sais, c'est pas le fédéral est méchant ou Québec veut pas.
Non.
C'est que les deux, faut qu'ils s'entendent, puis ils ont pas toujours la même vision sur les choses. Puis au final, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils voulaient tous réduire. Fait qu'une fois qu'on se dit qu'on veut réduire, puis que les demandeurs d'asile, tu peux pas non plus juste dire j'en ai plus parce que c'est une question de droit international et tout, ben là, la fourchette qui nous reste pour tout ce qui est économique, elle est réduite. Puis, Chaudière-Appalaches, avec le taux de chômage plus bas quasiment au pays, pas juste ici, là, comme au Canada, ben c'est pas la même réalité qu'à Montréal puis à Laval. Puis, il faut réfléchir ça plus globalement. Et là, quand je parlais justement avec le cabinet de M. Bonnardel hier, qui me disait, bien écoute, là, on n'avait pas le temps de jouer dans le programme, fait qu'on l'a juste réouvert. C'était ça l'engagement de la première ministre. Donc, on le remet pour permettre une meilleure transition puis éviter que des gens partent.
Mm-hmm.
Puis il y en a qui sont déjà partis, je vous confirme.
Ah oui!
Parce qu'il fallait réduire les seuils pour les bas salaires si on tombe dans le fédéral, mais bref, quand même. Je ne veux pas mélanger tout le monde avec ça, mais ça reste que on a juste repris tel quel. On n'est pas allé en mode on fait des changements significatifs parce que dans le temps qui leur restait, puis on n'a pas besoin d'un projet de loi pour ça, mais c'est vraiment une modification d'un programme. Ça nécessitait, je pense, une petite logistique, puis je ne suis pas sûre qu'au niveau de la fonction publique, ça leur tente, là, parce que c'est un beau mandat.
Non, ça va être très, 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 très complexe.
Vraiment.
Petit recul en arrière du côté du gouvernement de la CAQ aujourd'hui. On dit qu'on avait une cible de 90 % de véhicules électriques, de vente de véhicules électriques. Tu voyais même ça, mais Bernard Drinville. Ah, peut-être Bernard Drinville. Je me suis peut-être mélangé avec Bernard Drinville qui avait promis 90.
C'est ça.
Là, finalement, Pascale Derry, la nouvelle ministre à l'Environnement, dit que ça va être 80 % de vente de véhicules électriques pour 2035. On est à 17 % à l'heure actuelle en 2026.
On joue avec les chiffres, là. Tu sais, c'est un peu des vœux pieux.
Moi, que le gouvernement, c'est sûr, que le gouvernement mette un nombre comme ça en disant « Ah, ça va être ça, mon nombre. » Ça va être le marché qui va décider, en fin de compte.
Il y a le marché. Les concessionnaires ont quand même des incitatifs, là. On a essayé de savoir si les citoyens, les consommateurs allaient en avoir parce que ça a été réduit.
Écoute bien Pascale Derry, justement, questionné par les journalistes en point de presse impromptu.
Puis on est aussi beaucoup dans l'adaptation au changement climatique. Fait que mon objectif, c'est de tendre évidemment le plus possible vers cette cible-là. Puis j'ai aucune intention de changer ces cibles-là pour l'instant. Merci beaucoup.
Est-ce que vous voulez ramener les subventions à l'achat?
Ah, il n'y a pas de réponse. Hein? Est-ce que vous voulez ramener les subventions à l'achat? Elle était partie. Elle était rendue plus loin là-bas.
Elle était attendue. écoute, c'est ça. Je pense que si on veut... c'est un peu la main qui nous nourrit. T'sais, si on veut que les gens changent des comportements, des habitudes qui sont quand même très ancrées en termes de véhicules, il y a quand même une augmentation. Ça, on ne se le cachera pas. C'est sûr que ça prend souvent un incitatif.
Surtout avec le fait que les gens, tu sais, le coût de la vie est très élevé, fait que les gens ont de la difficulté à arriver.
Les autos, ils sont chers, puis les concessionnaires, les fabricants ont des incitatifs, mais si le consommateur, au bout du compte, il l'a pu, surtout qu'on l'a eu, fait qu'on sait un peu c'était quoi, puis ça, honnêtement, ça fonctionnait.
Vraiment.
Les gens l'utilisaient, donc qu'on mette justement 2035, on vise 100 % mais que là, on réduit à 80 % le gap est tellement grand que je suis pas sûre que ça fait une si grande différence que ça dans les objectifs. Là, on dit 2030, on va être à peu près à 50 % là, on veut se rendre là. Fait que là, OK, la marche est moins grande. Mais dans les faits, c'est quoi que tu changes à part le chiffre pour inciter tes gens à se rendre là? On parle de partir le lave-vaisselle le soir, puis les citoyens, c'est lever de bouclier. Là. Fait qu'imagine comment on va réussir à faire changer des comportements aussi ancrés que la voiture.
C'est
quand même gros.
Exactement. Lali, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On fait une courte pause parce que c'est Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure et vice-premier ministre qui sera avec nous au retour.
Bon après-midi. Jusqu'à...
Il est présentement 13h32 minutes. Vous êtes à l'écoute de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. À compter de 14h, c'est Gravel dans le retour avec Denis Véro et Audrey. Grosse annonce à 16h concernant l'avenir de Gravel dans le retour. Ouf. Bien hâte d'entendre
ça. Ça sonne gros, ça.
Branchez-vous. Rangez-vous, c'est teasé depuis hier, donc soyez-y. Mesdames, messieurs, à 16h dans le retour de Gravel. On a parlé tout à l'heure avec Guillaume Bouvrette. Ça va être disponible sur le blvd.fm. C'est le président du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. On a parlé du congédiement d'Olivier Smith-Lauzon, ce lanceur d'alerte. Vous le savez, on aime beaucoup parler aux deux côtés de la médaille à Boulevard 101, précisément l'émission On en jase. Et c'est pourquoi on a le ministre de la Sécurité intérieure et vice-premier ministre Yann Lafrenière avec nous. Monsieur Lafrenière, vous allez bien?
Oui, ça va bien vous-même.
Oui, M. Lafrenière, pas le choix de vous poser la question d'entrée de jeu avant qu'on parle de bonnes nouvelles comme la loi Gabi-Renault. Est-ce que l'UPAC est rendu politisé avec le dossier d'Olivier Smith-Lauzon?
Non, mais je vais être prudent. Je ne vous donnerai pas beaucoup de commentaires. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'un, l'UPAC fait partie de mon portefeuille, dans le sens que c'est un des organismes dont je gère le budget. Et pour ce qui est du contenu, des enquêtes qu'ils font, à qui ils parlent, qui porte plainte, ça, en aucun temps, je suis au courant. Puis, le plus bel exemple, c'est que, il y a quelques mois, on m'avait demandé si j'étais au courant que l'UPAC enquêtait sur les libéraux. Et je ne savais pas. Je l'ai appris par les médias. Alors, ça, c'est clair. Mais toute personne peut contacter l'UPAC, peut donner une information parce qu'il pense qu'il y a eu, des problèmes quelconques. Alors, ça peut se faire en temps.
Comment on fait, M. Lafrenière, à ce moment-là, étant donné que c'est dans votre portefeuille, pour faire des bilans pour être en mesure de gérer justement les sous qui sont attribués, qui sont donnés du côté de l'UPAC sans être jamais au courant des enquêtes qui sont en cours? Ça doit être difficile, ça?
Non, parce que la même chose se passe avec la Sûreté du Québec, avec les grands corps policiers. Moi, je vois les résultats. Vous savez, comme élu, c'est normal de donner des directions à dire, voici, exemple, on va mettre plus d'énergie pour tel type de criminalité, mais le comment... Mais ça, je ne touche pas à ça. Puis c'est là que la ligne, elle est très, très claire. Puis, tu sais, j'ai fait de la police pendant 28 ans. Fait que je connais les gens. Mais ce que je me suis imposé comme ligne, c'est que jamais je vais parler d'opération avec ces gens-là. Parce que c'est une ligne qu'il ne faut pas transgresser.
Deux dossiers que je veux parler avec vous.
Juste rapidement, terminer là-dessus, puis je vous donne un exemple. Là.
Allez-y.
Moi, à la fin de l'année, on me dit le nombre d'enquêtes que l'UPAC a faites, le nombre d'enquêteurs qu'ils ont eu, le nombre d'enquêteurs et ça. Mais de quelle façon, à qui ont parlé, comment ils ont fait leurs enquêtes, il ne faut absolument pas que la politique soit là-dedans.
Deux dossiers que je vais absolument parler avec vous parce que je vais vous trouver que ça me touche personnellement parce que dans les deux cas, j'ai eu des connaissances à qui c'est arrivé. Le premier, la loi Gabi-Renault. Vous me disiez, hors d'onde, qu'il reste quoi, à peu près deux prises de parole et elle va être adoptée. C'est une méchante bonne nouvelle, ça.
C'est une excellente nouvelle. Ça va se faire... écoutez, depuis tantôt, vous utilisez votre annonce de 16h. Moi, je vais utiliser la mienne de 14h30 environ, où on devrait être capable de faire un point de presse non-partisan avec tous les partis pour nous dire que la loi 4, le projet de loi 4, va être adopté. Et ça va permettre aux partenaires intimes qui se sentent en danger, à risque, de faire une demande. Ça va se faire par un site web. La Sûreté du Québec va recevoir le formulaire. C'est de pouvoir demander quels sont les antécédents, mais ça ne sera pas juste le punitif. On n'ira pas vous dire, voici, il était accusé en telle année, tout ça. Ça, tout le monde a accès quand on va au palais de justice. On va aller plus loin que ça, dans les banques de données policières. On va aller voir justement quels sont les dossiers qui auraient été enquêtés et tout, pour donner plus d'informations pour que le partenaire intime prenne une décision éclairée à savoir ce que je reste dans cette relation-là ou pas. Je ne veux pas causer de faux sentiments de sécurité. C'est pas parce que le retour sera négatif que ça veut dire que je ne suis pas dans une situation qui est une relation toxique. Mais on ajoute un outil, ça se rajoute au brassant de rapprochement, ça se rajoute à plusieurs mesures qu'on a mises en place. Et vous voyez, on a travaillé tous les partis ensemble, mais en quelques semaines, on y est arrivé. Bien fier.
Est-ce que vous l'appréciez cette semaine-là, justement, M. Lafrenière, étant donné que, tu sais, il y a cette loi-là qui va être annoncée officiellement aux alentours de 14h, 14h30, comme vous le disiez. Il y a la loi aussi sur les boissons énergisantes. Ça s'est fait très, très, très rapidement de voir le Parlement travailler main dans la main comme ça. Ça doit être agréable, ça. C'est une belle semaine pour tout le monde.
C'est agréable. Ça fait le lien avec l'autre dossier que vous venez de parler. J'ai présidé, il y a quelques années, la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Puis on l'a fait de façon non-partisane. Puis quand on fait ça, bien, moi, ça me donne espoir. Ça me donne espoir dans la politique. Oui, j'étais un policier pendant la majorité de ma vie. La politique, j'avais certaines appréhensions, justement, le côté hyper-partisan. Puis quand on fait des projets comme ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire ensemble. Puis dans ce temps-là, mais ça donne espoir. Moi, je suis très heureux de ça. Je suis très heureux du résultat aussi pour la lutte à l'exploitation sexuelle des mineurs qu'on a faite. Moi, quand j'étais au SEVM, j'ai promis aux victimes qu'on ne les oublierait pas. Ça, je les sentais vraiment oubliés. On est arrivé au pouvoir, on a mis sur place la commission spéciale. Tous les partis, on a sorti des recommandations 58. Puis on s'attaque à ce fléau-là. Aujourd'hui, je dois vous dire que 5 ans après, bon, les chiffres sont élevés. De plus en plus de jeunes mineurs qui sont exploités sexuellement. aussi jeunes que 12 ans. Puis les hommes, les gars, on a un rôle à jouer là-dedans. Hein. De se parler, de dire qu'il y a des hommes qui payent pour coucher avec des enfants de 12 ans. J'espère que les gens qui nous écoutent présentement sont aussi choqués que moi d'apprendre ça. Puis on se dit non, il faut que ça arrête, il faut en parler autour de nous. Moi, sur toutes les tribunes que j'en parle. Oui, on mène une lutte sans merci, mais pourquoi il y a une recrudescence? Est-ce que c'est parce qu'on fait plus d'opérations qu'avant? Parce qu'on en parle plus qu'avant? C'est-tu parce qu'il y en a qui se sentent complètement décomplexés d'avoir recours à des services sexuels quand ils payent, parce que pour eux autres, c'est une marchandise? Hein? Je l'entends souvent pendant la commission, là, des gens qui disent ben, « Écoute, moi, je l'ai payé, la petite, puis elle était contente. » C'est une façon de se déculpabiliser. Mais je suis désolé, là, en bas de 18 ans. En haut de 18 ans, on peut avoir bien des discussions, puis je suis pas dans la ligue de la morale stricte là-dessus. Écoutez, on peut avoir des discussions, mais en bas de 18 ans, je suis désolé, il n'y a aucune discussion à avoir.
En effet, comment qu'on fait pour venir diminuer ce phénomène-là d'exploitation sexuelle des mineurs? Parce qu'ici à Québec, on a eu au début des années 2000 la fameuse enquête Scorpion. On avait l'impression d'avoir pris le dessus, mais on parlait avec justement l'ex-enquêteur au SPVQ, Roger Ferland, qui est chroniqueur pour nous, puis il dit non, il y a une recrudescence à l'heure actuelle à Québec. Qu'est-ce qu'on doit faire pour enrayer ce phénomène-là?
Bien, une partie, c'est ce que vous me donnez comme tribune aujourd'hui, d'en parler. Vous savez, c'est un phénomène, puis Roger a vraiment raison, là, pourquoi on a accès plus que jamais? Bien, c'est les médias sociaux, c'est les outils technologiques. Maintenant, on peut commander une jeune fille mineure comme on commande une pizza. Puis ça, c'est des termes que j'ai entendus pendant la commission. Là. Je vous le dis, c'est des termes que j'ai entendus pendant la commission. Où les gens appellent, demandent les attributs de la jeune fille qui va leur être livrée, puis ce qui va être fait comme moment avec eux, c'est commandé dans le confort de sa maison. Avant ça, on devait se déplacer, on devait aller dans un endroit glauque, faire une entente avec quelqu'un. Vous comprenez, il y avait des risques de se faire pincer. Mais là, de faire ça sur son téléphone, sur une application, ben il y a plus d'anonymat. C'est pour ça qu'il faut trouver toutes les tribunes possibles, comme vous m'offrez aujourd'hui, pour en parler. Se sensibiliser à ça. Fait que la sensibilisation, c'est important. La formation des intervenants, écoutez, des milliers d'intervenants qui ont été formés, entre autres avec le programme Les Survivantes que je veux saluer. C'est des jeunes femmes qui ont survécu à l'exploitation sexuelle, qui forment les gens, qui forment les policiers, mais aussi qui sont utilisés, entre autres, dans certains stages où on va sensibiliser les personnes qui ont été arrêtées pour avoir acheté des services sexuels, avoir voulu en acheter. Et ça, on a un taux de récidive là qui est moins de 20%. Fait que les gens qui ont ce stage-là, ils comprennent très bien que en arrière du genre de spectacle qu'ils ont vécu, on leur a fait à croire que les gens voulaient le faire, puis c'était de bon cœur payer leurs études, que c'était des femmes qui étaient exploitées. Mais encore aujourd'hui, en 2026, ce sont des milliers de jeunes filles au Québec qui sont exploitées par des gens sans scrupules qui leur font faire 7, 8, 10 clients par jour, 7 jours semaine. Et les plus jeunes victimes, c'est 12 ans.
Écoutez, je perds mes mots parce que c'est épouvantable.
Vraiment.
Ça me rassure, je vais le dire, là, quand j'ai cette discussion-là, puis je le fais sur toutes les tribunes, des fois, je suis cassé de party un peu. Là.
Mais en même temps, c'est important.
On doit se le dire.
Ben oui, vraiment.
Les mots sont choisis. Là. C'est pas. Je vous dis, souvent, le mécanisme de défense, les gens vont dire, ils ont payé, c'est un achat de service. J'ai payé, j'ai eu ce que je voulais comme service. Mais je vous le dis, ma ligne est facile. Hein. En bas de 18 ans, on peut même pas en jaser.
Exactement. Ah
non, c'est bien correct de fermer la porte complètement par rapport à ça. T'sais, moi, j'étais dans une école secondaire à Limoilou quand a eu lieu l'opération Scorpion, puis le visage de mon école a complètement changé entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5. Mm-hmm. Et on ne se serait jamais douté qu'on côtoyait autant des victimes que des proxénètes de façon quotidienne. Mais je vous jure, pour l'avoir vécu de l'intérieur, le monsieur Lafrenière, à quel point on était une gang arrivant en secondaire 5, puis on était déboîté de voir à quel point tout ça se passait sous nos yeux, puis on ne le savait pas. Dans cette stratégie-là, d'en parler davantage, c'est parce que j'ai eu un flash en vous écoutant, puis je pensais à Jean-Raphaël Drolet, ce policier de la SQ qui connaît énormément de succès sur TikTok depuis quelques mois. Est-ce que ça, c'est dans les plans du gouvernement, peut-être, d'aller de l'avant puis d'aller parler, parce que je sais qu'il y a déjà des interventions beaucoup dans les écoles, on essaie de s'adresser aux jeunes, mais d'aller leur parler là où ils sont, c'est-à-dire sur TikTok, sur Snapchat, sur ces différents réseaux-là. Est-ce qu'on pourrait voir des grandes campagnes se déployer peut-être dans les prochains mois?
Oui, absolument. On a fait beaucoup de campagnes qui ciblaient plutôt les acheteurs. les abuseurs, donc les gens qui font appel à des services sexuels de mineurs. Mais oui, chez les jeunes, vous savez, moi, mes filles ont 16-18 ans. Ils disaient qu'à l'école, bon, la formation a changé drôlement. Plus de sensibilisation, plus d'éducation là-dessus. On en parle aujourd'hui, c'est une super bonne idée d'être capable d'aider ces jeunes filles-là à se reconstruire. Vous avez vu assurément la série Fugueuse, la première série. Moi, c'était fait sur l'histoire d'une jeune fille dans mon comté, dans Saint-Hubert, que je connais. Une jeune fille qui est une première de classe. Ses deux parents sont du monde de l'éducation, donc ils comprennent très bien ce que c'est. Hein. Puis quand même, elle a été exploitée pendant 2 ans. Puis je la voyais récemment. Elle me dit, t'sais, Yann, moi, je ne ferai jamais confiance à un homme de ma vie.
Ah, c'est
impossible.
Fou.
C'est impossible. Puis des histoires comme ça, malheureusement, quand je suis au SPVM, j'en ai vu trop. Pendant la commission, plusieurs personnes qui sont confiées à nous, qu'on a entendues, puis c'est des histoires qui sont horribles. Quand tu entends une jeune fille te dire, parce que l'autre chose aussi qui est arrivée récemment, on tentait d'essayer de mettre la faute sur un événement par année, en disant, oh, c'est bien, c'est le Grand Prix. Puis, mais je pense que comme humain, ça me fait plaisir de croire que c'est juste dans un événement, dans un moment de l'année. Mais je suis désolé, c'est pas vrai. Là. C'est à longueur d'année. Mm-hmm. Pendant la commission, on a fait des tests, on l'a démontré clairement que c'est à la grandeur du Québec. Il n'y a pas une région au Québec, il n'y a pas d'exploitation sexuelle. Il n'y en a aucune. Il y a des services qui sont conservés partout, c'est à longueur d'année. Puis même, j'ai une des jeunes victimes qui me disait, Yann, souvent, il y a plus de demandes dans la période des fêtes. Dans la période des fêtes, elle me racontait un client, un papa qui appelait pour avoir les services. Puis ça se passait dans le garage de la maison familiale pendant que maman et les enfants couchaient à la maison.
Aïe, 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 quelle histoire d'horreur. Une petite dernière question très rapidement, M. Lafrenière, oui? Parce que je sais que votre temps est compté. Est-ce qu'on veut donner des peines justement plus sévères? Là, c'est plusieurs auditeurs par texto qui nous parlent de ça.
Oui, puis je vais terminer là-dessus en vous disant ce qu'on appelle le « shaming ». De s'en prendre à ces gens-là, puis je pense qu'on est tous frustrés, puis je suis persuadé que les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont le mort aux dents, puis qui sont vraiment frustrés de tout ça. On a regardé dans d'autres États que ça s'est fait, l'exemple de mettre le nom de ces personnes-là dans des endroits publics et tout, et ça donne vraiment pas les bons résultats. Fait que ça peut peut-être nous faire plaisir, là, c'est comme humain, de dire « ouais, on va régler ces cas-là », mais tout ce que ça fait, ça les radicalise encore plus, on les sort complètement de notre société, puis ces gens-là, ça donne de très mauvais résultats. Fait qu'il semble que des projets comme ce qu'on appelle les John Schools, c'est-à-dire de faire des opérations quand les gens veulent acheter des services sexuels de majeurs, non pas de mineurs, d'attraper ces gens-là, de les forcer, de leur offrir, je ne sais pas dire les forcer, mais on force le choix, là, de prendre une séance de formation justement avec des victimes, d'ex-victimes qui viennent expliquer ce qu'elles ont vécu. Il semble que ça et la sensibilisation à grande échelle comme on fait là donne de meilleurs résultats. Sinon, oui, les peines plus sévères. Oui, c'est des demandes qu'on a faites avec le fédéral aussi pour tout ce qui est d'utiliser des jeunes pour commettre des crimes. Ça aussi, on a une hausse. Alors, on veut des peines plus sévères. Il n'y a pas une solution à ça, il y en a plusieurs. Puis je veux vous dire encore une fois, merci. Je sais que des fois, mes mots sont durs, mais il faut se dire les vraies choses. Puis il faut agir là-dedans parce que ça n'a pas d'allure en 2026 qu'on laisse les choses aller. Moi, je l'ai dit dans la commission, je vous le redis, là. La même chose se passait avec des animaux. Il y avait des manifestations à Montréal.
Ah, vous avez tellement raison. Bon. Monsieur Lafrenière, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour protéger les femmes de la violence conjugale et les jeunes filles de l'exploitation sexuelle. C'est à la gang qu'on va réussir.
Absolument. Puis les gars, on fait partie de la solution. Il faut qu'on se parle, nous aussi.
Oh oui, il faut qu'on se parle. Puis justement, je le dis toujours, si vous avez un ami dans votre entourage, là, puis je parle pour la violence conjugale, là, que vous sentez que la soupape pète régulièrement, là, envoyez-le vers des organismes d'aide avant qu'il soit trop tard.
Oui, puis ça marche en prévention. Hein, dans un autre projet de loi qu'on a fait récemment, des policiers qui interviennent dans une résidence, même si c'est pas de crime de commis. Exemple, une plainte de bruit, ils arrivent sur place. On voit qu'il y a une relation toxique, et on doit maintenant de référer l'homme à un organisme qui en aide aux hommes violents. Et le projet pilote qu'on a fait sur la réussite de Montréal, ça a donné que 75% des hommes ont accepté l'aide. Ça, c'est de la vraie prévention. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on met en place, on n'en parle pas toujours, plusieurs choses qu'on met en place pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire nos enfants, les jeunes, absolument, les femmes qui sont abusées ou qui sont violentés. Puis ça, faut continuer. Il faut le dire sur tous les tribunes. Merci encore de votre temps aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci, M. Lafrenière. Bonne fin de session parlementaire.
Hey, merci, à bientôt.
Merci, au revoir. Yann Lafrenière, ancien enquêteur au SPVM maintenant, ministre de la Sécurité intérieure, vice-premier ministre. Ah, quand je fais ce type d'entrevue-là, là, puis qu'on parle de la petite adolescente exploitée sexuellement qui se retrouve dans le garage d'un vieux cochon pendant le temps des fêtes, pendant que les enfants sont l'autre bord avec la femme.
Sa famille est là. Ouf. T'imagines-tu? Pense-y deux
secondes. Sans scrupule.
Mais à quel point il faut que tu sois dérangé là, pour ouais. capable de faire un truc pareil. C'est... Puis honnêtement, tu sais, je veux pas que ça sonne partisan, mon affaire non plus, mais tu sais, Monsieur Lafrenière, c'est un des hommes politiques que j'apprécie vraiment beaucoup.
Vraiment?
Je trouve que, comme on dit, on a un bon là,
ben, c'est
en
un,
ce moment.
C'est un gars qui travaille en équipe, qui est capable de travailler avec les autres partis politiques.
C'est ça. Puis c'est un homme qui a été sur le terrain assez longtemps, qui a été à l'interne, qui sait ce qui se passe, qui est au courant de comment ça marche. Imagine un homme comme ça qui est pour les forces policières pendant 27 ans, la quantité de ressources, de contacts, les tentacules qu'il a un peu partout. Pour
exactement.
Encore, même s'il est plus au Parlement aujourd'hui, avoir des Bref, yeux un peu partout
ça en place
sur
aussi.
Le terrain, puis mettre ça en place
Rassembler
aussi
tout le monde.
Rapidement. C'est un monsieur, quand il se met à parler, tu te tais et tu l'écoutes, parce que oui. tu sais que ça va être pertinent, ce qu'il va amener. Puis, tu sais, c'est des belles, grosses solutions. Ça éradiquera pas tout au complet, il nous l'a dit, mais je trouve que c'est des belles grosses solutions quand même qui ont été mises en place, des fois un peu en coulisses dans les derniers mois, parce que c'est ça, tu sais, comme je le disais tantôt, pour l'avoir vécu de l'interne, quand c'est arrivé, quand je suis revenu en secondaire 5, tu sais, je te dis, là, Jeff, là, de se dire, voyons, un tel, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas, lui, il est impliqué, là, il faisait ça n'a pas...
C'est ça.
T'sais, on jouait au basket ensemble dans la ruelle à tous les soirs, puis c'est un écœurant de même. On le voit pas des fois.
Non,
ce qui se passe
c'est pas toujours visible.
Nez,
en effet. Courte pause, on finit l'émission en sport. On change les idées un peu.
On en jase à Boulevard 102.1.
OK, pour terminer cette belle émission, on ferait vraiment pas notre job si on vous rappelait pas qu'à 16h! Grosse annonce pour l'avenir de Gravel dans le retour. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer là? Ils viennent d'avoir des bons sondages. Leur meilleur depuis qu'ils sont à Boulevard.
Moi, je sais pas.
Là?
Je suis pas au courant de rien du tout. Écoute, la seule affaire que je sais...
Faut-tu que je sois inquiet?
Ben, la seule affaire que je sais puis que je peux dire...
Ouais.
C'est que moi, je remplace à Boulevard demain avec toi... Puis je poursuis dans le show du retour aussi.
T'es avec qui dans le show du retour?
Là, je sais pas. Ça, c'est moi. Moi,
okay,
juste dit,
tu peux-tu
venir dans le show du retour? Je vais t'occuper. Ben oui, let's go.
Boy.
Y a pas de souci. Une fois de temps en temps comme ça, de venir aider.
Ouais, mais là, ça m'énerve, là. 16h.
Je sais pas.
Faut être en onde à 16h. Hey, qu'est-ce qui va arriver avec notre retour? Voyons, c'est notre émission la plus populaire sur nos ondes. Peut rien arriver?
Je sais pas. J'ai aucune espèce d'idée. Juste avant la saison estivale en plus aussi.
Ben, c'est ça. C'est pas pantoute.
Manquez pas ça. D'ici là, moi, je peux-tu juste dire aux auditeurs, Jeff, peut-être d'aller faire un tour sur le blvd.fm?
Ben oui.
Si vous avez manqué des moments de l'émission On en jase aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'excellent débat.
T'as raison.
Très intéressant, mais aussi très divertissant entre Antonine et toi. On a eu des intervenants excessivement intéressants, dont notre ministre de la Sécurité intérieure, M. Lafrenière, dans les dernières minutes. Si vous avez manqué ça, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Mm-hmm. Puis si vous avez des kids à la maison, si vous avez des adolescents, prenez le temps d'écouter cette entrevue-là avec vos ados, vos jeunes ados peut-être. Et puis là, je parle gars ou filles. Puis gars aussi, M. Lafrenière l'a dit, il faut qu'on se parle, les gars. Faites donc un petit effort d'écouter cette entrevue-là avec vos ados. Je pense que ça vaut vraiment la peine.
Excellente idée. 16h! Grosse annonce dans Gravel dans le retour. On les laisse justement prendre les ondes. Bye-bye, guys. À demain.
Ciao.